Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, c'est un mag, donc on va revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Et souvenez-vous, la semaine dernière, à la fin de l'émission, je vous avais dit, il y aurait une surprise. Eh bien,
Tada!
il y a une surprise. Non, c'est pas Dino.
Non, je dis, j'étais pas là la semaine dernière. Voilà, tada!
Tu n'es pas une surprise. Au pire, tu es un soulagement quand tu n'es pas là. Mais tu n'es pas une surprise.
Foiré.
Nous avons aussi Gus Gus. Bonsoir Gus Gus.
Bonsoir.
Mais non, la vraie surprise.
Le vrai guest.
Le vrai guest. Bonsoir Antoine Arlo.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. C'est moi la surprise?
Oui.
Oui.
J'ai mis un ruban autour de ma tête, donc c'est bon.
Ah, il faudrait qu'on propose à Elder, ça éviterait qu'on ne voie pas son manque de cheveux.
C'est pas très radiophonique.
D'ailleurs, on tient à rendre hommage, à rendre à César ce qui appartient à César, puisque la présence d'Antoine est en partie due au matraquage médiatique effectué par notre ami Elder, qui sur Twitter prend les gens comme ça et leur dit « Tu viens ?»
C'est vrai qu'il est très bon pour saouler les gens.
Oh, ça a été, ça a pas duré trop longtemps, ça.
Ouais, c'est vrai qu'après, on est tellement exceptionnel que voilà.
Voilà, les gens acceptent. C'est le talent.
Alors, rappelons pour les ignares qui ne le connaissent pas que Antoine est journaliste chez RMC et qu'il suit bien évidemment la Formule 1, sinon il serait pas au SAV de la F1.
Intéressant.
Oui.
Mais pas que. Il suit d'autres trucs.
Oui.
Ah bon?
Ah bah
pas.
Quand...
Ouais.
Ben oui, ça arrive. Mais beaucoup de Formule 1 quand même, ça prend un peu de temps quand même, hein. 9 mois.
Oh, si peu.
9 mois à travers le monde, ça prend un peu de temps.
Et des galères dans des aéroports, tout ça.
Voilà, exactement. Alors ça arrive au moins une fois ou deux par saison, notamment pour aller en Australie quand il y a 10 cm de neige, mais bon. On se fait.
Alors vous verrez, cette émission là, un petit peu bousculée, mais malgré tout, on garde...
Non, c'est le montage, non, je suis désolé, je dois dire par avance, c'est
quoi
le montage de Gus Gus qui est foireux.
Mais il est très bien le montage de Gus Gus.
Je peux déjà vous dire par avance que le montage de cette émission, qui n'est pas encore enregistré, va être foireux.
Hein? Je vous ai pas dit, je pars en vacances ce soir.
Merde.
Après l'émission.
Et donc, comme tous les mags, on va commencer avec notre petit quiz habituel, hein, notre quiz ta gueule, hein, de son joli nom.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Qui osera dire ta gueule à Antoine Arlo?
Oui,
je pouvais y aller.
Tu vois, les mecs suffisamment cons pour inviter quelqu'un et à un moment donné lui dire « Oh, écoute ta gueule, tu nous fais chier, tais-toi. »
J'espère que vous allez y aller quand même, parce que sinon c'est pas drôle.
Ah non, mais c'est notre objectif.
Oui, mais faut qu'on gagne.
Et après, si vous me dites ta gueule, par contre, je ne parle plus pendant 2 heures, à peu près.
Ah merde.
Ah merde.
C'est pas grave, on enregistrera à 4 heures.
D'accord.
On fera un gros silence de 2 heures, on coupera le silence et ça se fera pas.
Ah oui, mince, j'avais oublié que tu enregistres.
En même temps, on dit ça, mais ça se trouve, c'est Antoine qui va gagner. Qui va me foutre dans le nez.
C'est vrai, et il pourra nous dire ta gueule.
Donc rappelons, hein, c'est un quiz habituel. L'un nous propose une question, il faut trouver la réponse. C'est en règle générale le but des questions. Et pour essayer de trouver la réponse, on peut lui poser à lui-même des questions, mais lui, il ne répondra que par oui ou par non. Ou par peut-être. Ou par c'est capillotracté.
C'est le défi de Shinji ce soir. Il explique des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Et il explique à quelqu'un qui fait de la radio que bon, bah là, on fait de la radio, donc...
Non, c'est pas ça. C'est que j'essaie de faire d'élever mon niveau d'humour depuis que je me suis pris un ta gueule la semaine dernière pour avoir repris quand même une blague qui n'était pas de moi.
Oui, c'est vrai.
Non, mais alors tu expliques tellement bien que je n'ai absolument rien compris.
Non, mais en fait, c'est très simple.
Ouais, vas-y, explique.
Si tu veux, Antoine, tu as le droit d'anticiper ton ta gueule. Je t'aiderai à gagner la question. Et dire, je dis ta gueule.
D'accord.
Dino va poser une question et il faut y répondre. C'est simple.
Celui qui répond pendant l'émission a le droit de dire ta gueule à un autre. Et donc, cette personne devra se taire pendant 5 minutes.
D'accord, très bien.
En sachant qu'Elder ne participe pas. Donc, je vais en prendre certainement plein ma gueule. Alors, messieurs, vous êtes prêts?
Oui.
C'est une question, indice en bas de votre écran. Pour quelle raison la Pologne sera-t-elle à l'honneur chez Lotus à Barcelone?
J'imagine que c'est pas Kubica, c'est trop facile.
Ça, ouais. C'est trop facile, ouais.
Ah, et ben justement, non. Tu t'es fait pourri.
Le silence est magnifique.
Oui,
oui.
Dès qu'on parle de la Pologne, c'est Kubica et après
oui,
le néant.
Bah, et puis l'alcool aussi, mais bon.
Ah, il y a un petit lien, mais c'est capillotracté.
Profite bien, Antoine, il n'y a pas le CSA pour nous.
Ah ouais.
C'est la nationalité d'une personne qui sera dans le paddock?
Dans le paddock, peut-être. Il sera à Barcelone. Après, je peux pas garantir qu'il sera dans le paddock.
C'est quelqu'un qui va se faire refouler à l'entrée, donc.
Ah, c'est en marge du Grand Prix, c'est pas...
C'est en marge du Grand Prix. Bon, il y a de fortes chances qu'on le voie dans le paddock, quand même, mais...
C'est culturel?
C'est culturel.
Une célébrité qui sera à Barcelone?
Une célébrité, je n'oserais pas dire célébrité.
C'est un rapport avec Lotus, donc c'est...
Oui.
Ah, c'est pas... je sais pas qui c'est, mais ils ont un accord avec un label de musique qui fait que leur hashtag change chaque Grand Prix, et donc c'est un rapport avec ça.
Non.
On est bien d'accord que c'est quelqu'un, c'est un être vivant. C'est pas quelque chose qui vient de Pologne.
Non, c'est un être vivant.
D'accord.
D'ailleurs, la définition d'être vivant est très bonne.
Est-ce qu'il fait partie de la classe des hominidés?
Oui.
Donc c'est quelqu'un qui a rapport avec Lotus, mais qui ne sera pas dans le paddock.
Ouais. Vous avez vu la rigueur journalistique d'un gars de chez RMC? Voilà.
Incroyable.
Quand on dit Lotus, on parle bien de l'équipe Lotus.
Ouais, non, pas du PQ, Shiji.
Non, mais... Ou de la marque, de voiture.
Non, on parle de l'équipe Lotus. Lotus F1 Team.
Bon, je vais prendre la deuxième question.
Non. C'est bien tenté.
Je vais prendre le switch, Jean-Pierre.
Alors, en fait, je peux pas vous dire s'il est vraiment polonais. Tout ce que je sais, c'est qu'il est d'origine polonaise.
Ah, tout de suite, hein.
Ah oui, ça se trouve, il est italien, quoi.
On recoupe pas, on vérifie pas. C'est pas joli, joli, tout ça.
Tu chercheras après. Et voilà. Il se trouve que quand on le cherche, on tombe plus souvent sur le nom d'une équipe de football que sur cette personne-là. C'est un bon indice, mais en même temps, c'est un indice pourri.
J'en connais quelques-unes, des équipes de foot, quand même.
Oui.
Donc, c'est l'homonyme d'une équipe de foot, en fait.
Il est pas homonyme. Disons qu'il a un surnom. Quand tu le cherches dans Google, tu tombes sur une équipe de foot.
En fait, l'émission dure 2h30, à peu près, et c'est 2 heures sur la première question.
Tout voilà. À fait. En général, c'est ça. Ah, je peux vous donner un indice. Ce monsieur s'appelle Marius Waraz.
Un chanteur?
Non.
Ça, c'est la personne qui a un rapport avec Lotus, il s'appelle comme ça?
Oui.
Oui. C'est un artiste?
C'est un artiste.
Il a un lien avec l'automobile ou pas du tout?
Non, pas du tout.
C'est un peintre?
Oui, c'est considéré comme un art pictural désormais. Il y a même des musées.
On le voit régulièrement à la télévision?
Non. On le voit déjà pas sur Google alors.
Donc avant, ce n'était pas considéré comme un art?
Bah, disons que... Comme toute forme d'art, au moment où ça apparaît, on trouve pas que c'est de l'art, et puis en fait, peu à peu, ça devient un art. Un peu comme les impressionnistes, tu vois, au début on disait « Ah, c'est de la merde, c'est pas de l'art », et pourtant aujourd'hui tout le monde dit « Les impressionnistes, c'est de l'art ».
C'est le tatoueur de Kimi Raikkonen.
Non, mais il y a de l'idée.
Ah, est-ce qu'il ferait des tags?
Oui, il fait des tags. Ah. C'est ce qu'on appelle un artiste urbain.
D'accord.
Il a tagué une Lotus, dans Barcelone.
Eh ben, bravo Antoine. Il va taguer une Lotus F1, hein, donc ce Marius Waraz. Alors voilà, l'invité aura le droit de nous dire ta gueule, s'il te plaît pas.
Que le
Antoine.
Pouvoir du ta gueule.
Ah, oui. Attention, il ne sert qu'une fois. Il faut s'en servir comme tout pouvoir. Hein. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Alors je saurais m'en servir, mais je vous promets que je l'utiliserai avant la fin, parce que sinon c'est pas drôle.
Oui, il y en a des Belges, par exemple, qui demandent « Est-ce qu'on peut l'utiliser à la prochaine émission ?» Non, Ben. Et d'ailleurs, Ben, un jour, je t'aurai. Tu as donné un ta gueule à mon Shinji, à mon petit Shinji chéri. Tu me le payeras.
Sur une injustice.
Oui, bon, ça, je m'en fous. C'est juste qu'il t'a donné un ta gueule à toi, mon petit Shinji. Il a pas le droit.
Et que dit la commission de la LFP?
Pour innocent. Ils prennent jamais de sanctions. Donc, Marius Waraz, alias M. City... Voilà, donc quand vous cherchez M-City dans Google, vous tombez sur Manchester City. C'est un artiste de rue d'origine polonaise qui est auteur d'œuvres graphiques monumentales monochromes. C'est qu'en fait, il y a plusieurs couleurs, mais pas beaucoup de couleurs. Donc deux couleurs.
Bah dans ce cas-là, c'est plus monochrome.
C'est du bichrome. Donc, il participera à Barcelone à la première édition du Burn Yard Live, une manifestation culturelle d'avant-garde organisée dans les arsenaux alors là vous avez adoré mon espagnol, d'Astilleros, en collaboration donc avec Lotus. C'est tout simplement une manifestation organisée par le sponsor de Lotus, Burn, alias Coca-Cola. Voilà, il y aura plusieurs étapes cette saison. À cette occasion, donc, M-City s'exprimera sur une voiture de démonstration, élaborant avec Lotus des motifs qui seront repris sur toute une gamme de produits, de la canette de Burn en édition limitée, jusqu'au conteneur de transport de la voiture de démonstration qui fera le tour du monde, sans doute lors des World Series by Renault ou ce genre de choses. L'artiste assure d'ailleurs que pour lui, cette expérience lui permettra de sortir de sa zone de confort, puisque donc, comme c'est un artiste de rue, il taguait sur des murs. Son œuvre la plus grande fait 116 mètres de long.
Ah, quand même.
Ah oui, quand même.
Et est considérée comme l'une des œuvres d'art les plus grandes au monde. Alors concrètement, il va taguer la Lotus. Alors c'est une Lotus de démonstration, donc c'est une voiture de il y a deux ans, je pense. Il va taguer la Lotus à l'aide de pochoirs. Il lui faudra 2 journées et demie pour la terminer. La touche finale étant apportée par un certain Kimi Räikkönen en personne. Et donc voici la conclusion. En vous rendant, et là tu vas être heureux, Shinji. En te rendant, Shinji, au Burn Yard Live de Barcelone, tu pourras faire d'une pierre 3 coups en allant admirer 3 œuvres d'art. Une Formule 1. Un artiste urbain de renommée internationale. Et Kimi Räikkönen. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite info. Toi, Antoine, qui sera à Barcelone ce week-end.
Ah bah, j'irai avec grand plaisir. J'espère que ce sera pas trop tard, que ce sera avant l'apéro, parce que sinon, si Kimi peint, ça risque de déborder un peu.
Alors attends, je le mets comment, le pochoir, là, parce que, oh, il est penché. C'est pas grave. C'est très bien, Kimi. C'est conçu exprès. Alors par contre, alors c'est une opération qui sera répétée un peu à l'image des concerts de musique qui sont organisés en parallèle de la Formule 1. C'est une opération qui sera répétée plusieurs fois cette saison. Et l'idée, voilà, c'est vraiment d'axer sur l'aspect culturel, et c'est un peu l'orientation que veut donner à son sponsoring Lotus, qui effectivement a un partenariat avec un label de musique, je crois, pour notamment les communiqués de Lotus portent le titre d'une chanson et compagnie.
Il nous distribue des albums en salle de presse aussi.
Ah, enfin, faut qu'on y aille.
On a eu Depeche Mode la semaine dernière.
Depeche Mode.
Ouais, on avait non pas la semaine dernière, sur un des derniers Grands Prix, avant même qu'ils sortent, avant même que l'album sorte, ils nous distribuent.
Ah, c'est bon ça.
Mm-hmm.
Ah, c'est beau la vie dans le paddock.
Oui, enfin on a pas beaucoup de cadeaux, hein, je vous rappelle. On a pas le droit de les accepter en plus.
Ah ouais, d'accord.
Un petit magnum de temps en temps de la part de Räikkönen.
Un magnum, c'est pas méchant. Même des fois, on va les demander, les magnums, hein, quand il fait très chaud.
Mais c'était quand qu'il avait offert des magnums, Räikkönen?
Bah, en Malaisie, l'année dernière, non?
Oui.
Pour l'anniversaire de les 3 ans de sa glace pendant le drapeau rouge.
Oui.
Et tu y étais, toi, Antoine?
Oui, mais je crois pas que ce soit il me semble pas que c'était en Malaisie. C'était plus proche de la fin de la saison, mais c'était pas lui vraiment qui avait distribué les magnums.
Non, bien sûr.
Pas avec son carton magnum en...
Tu voudrais dire que c'est de la communication?
C'était un attaché de presse qui avait distribué un communiqué de presse avec les magnums, signé Kimi Räikkönen. Je pense qu'il était lui-même pas au courant. Mais en tout cas, l'attention était gentille. De la part de Lotus.
Ah voilà, de la part de Lotus. D'accord, vous m'entendez, fan voilà. De Kimi Räikkönen. Kimi, en fait, c'est... Il est bidon.
C'est un bon produit marketing.
Donc voilà, c'est tout pour cette question. Donc bravo Antoine, premier guest, il met la barre haut, hein, parce que pour les futurs guests, ils devront gagner, sinon ils font pas aussi bien qu'Antoine. Donc bravo Antoine, tu auras le droit de dire ta gueule à l'un d'entre nous, de préférence Shinji ou Gus Gus.
Oh là 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 là.
pendant les 2 prochaines heures de l'émission.
Bah ça peut tomber sur n'importe qui parce que je reconnais pas encore bien les voix.
Ah merde.
Merci pour cette question, Dino. Bon, elle était chiante à trouver, j'ai dit bien à trouver. Mais elle était bien, c'était un bon sujet. Et alors cette semaine, on bouscule un peu notre mag parce qu'on s'est dit quitte à avoir un invité, autant faire une heure de gloire de l'invité. N'est-ce pas, Dino? N'est-ce pas, Gus Gus?
Oui,
tout à fait.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Je crains le pire.
Oh oui. C'est pas moi qui gère, mais pour savoir ce qu'il y a dedans, tu peux t'inquiéter.
Gus Gus, je te propose de commencer.
Ah, c'est moi qui commence.
Bah oui, parce que c'est plus logique que moi je fasse en deuxième pour raccrocher à l'actu après.
Eh bien, allons-y. Antoine.
Tu vas en chier.
Levez la main droite et dites, je le jure, vous ne direz rien que la vérité, que la vérité.
Ah, évidemment. Je le jure, comme toujours.
Très bien. Tu vas être juste soumis à un petit questionnaire un peu décalé pour les gens qui ne te connaîtraient pas forcément, qui n'ont pas la radio ou peu importe.
Si je veux pas répondre, je dis ta gueule.
C'est une possibilité.
Ah bah là t'es peinard pendant 5 minutes hein, puisqu'il ne posera plus de questions derrière.
C'est une possibilité, mais il y a pas de piège, rien du tout.
Oh, la question numéro 7 est bacharde.
T'as pas les questions.
Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'elle est bacharde, parce que je vois pas vraiment où tu veux revenir.
Première question. Imaginons qu'un savant fou décide de nucléariser l'intégralité des circuits de la planète, mais que vous soyez un héros qui peut sauver un circuit, qui sera donc le seul à pouvoir nous apporter du bonheur dans le futur. Lequel choisissez-vous ?
Melbourne, je pense.
Melbourne ?
Melbourne. Moi, j'aime bien Melbourne. Il y a une belle ambiance. Mm-hmm. Ça ouvre la saison. L'endroit est super bien. C'est en ville, en plus. C'est ça. C'est pour nous, c'est vachement bien, parce que quand on est super loin des villes, c'est un peu plus ennuyeux, même si les circuits peuvent être bien. Mais Melbourne, je pense qu'il y a tout. Le circuit est sympa. L'ambiance est... Il y a la fête. Ça ouvre la saison. Je dirais Melbourne. En même temps, s'il y en a qu'un, ça ouvrira et ça fermera la saison.
Ouais.
Et c'est vrai que ouvrir et fermer la saison à Melbourne, c'est pas mal.
Pas mal.
Mais en plus, ce qui est bien à Melbourne, c'est que voilà, quand t'es 40 heures dans l'avion avant, bon, forcément, ça te paraît bien, quoi.
Et quand t'en arrives, t'as plus envie de repartir, parce que quand t'es là pour 5 jours, c'est se taper 40 heures de vol, c'est un peu dommage. Mais maintenant, il y a la Malaisie juste derrière, donc ça va. Donc voilà. Si ma réponse vous va, c'est parfait.
C'est magnifique.
Ah oui, oui.
Tu as pensé que j'allais dire la Corée ou...
Ça aurait été surprenant.
On sait quel circuit tu n'aimes pas vraiment.
Question suivante. Imaginons, vous remportez le jackpot de l'Euromillion, et après avoir évidemment gâté vos proches et assuré le reste de votre vie par des placements, il vous reste 50 millions d'euros à investir en F1. Comment est-ce que tu utiliserais cet argent ?
50 millions à investir en F1, c'est une bonne question.
Il faut surtout penser qu'il y a Bernie qui passe derrière.
Ouais, donc déjà, oui. Il en prend la moitié. Alors, 5. C'est une bonne question. Bah, je les donne pour un Grand Prix de France. Ce serait beau, quand même. Et il leur manque de l'argent toujours, donc ça les aidera. Je suis généreux.
Et tu le ferais où, toi, le Grand Prix de France ? À Pau ?
Je le ferais. Ah, le meilleur projet, c'est quand même... Enfin, il a jamais vraiment eu lieu, le projet, mais c'était quand même dans les rues de Versailles. Ça aurait été parfait. Un circuit en ville, c'est quand même plus sympa.
Oui.
Bah sinon le Castellet me semble le mieux parti. Le circuit est pas extraordinaire, l'endroit, le sud, voilà, il fait beau, c'est pas mal.
Oh, la ligne droite est bien quand même.
Ouais, ce serait pas le plus beau Grand Prix de la saison quand même, mais bon. N'importe où, mais ce serait bien qu'il y en ait un. Sinon je regarderai quand même un petit peu s'il y a 50 millions.
Tu rachètes Bernie en fait.
Oh, il faut au moins 100 fois plus.
Ouais, et puis je suis pas sûr que racheter Bernie ce soit un bon truc quand même. Il a 80 et quelques années, donc je suis pas sûr qu'il lui en reste tellement. Faut mieux acheter neuf.
Oh, méfions-nous. Attention, il a la peau dure. Alors, question suivante. Qui souhaiterais-tu avoir devant toi au volant d'une F1 biplace ?
Nabila ?
Non, mais faut que ce soit un pilote, j'imagine.
Non, si t'as une bonne raison pour le justifier, y'a pas de...
Non, mais on va mettre un pilote, c'est quand même mieux. C'est quand même plus crédible. Sinon, j'adorerais avoir Vincent Moscato. Ah ouais. C'est qu'il adorerait, il a demandé plusieurs fois à Romain Grosjean qui travaille un petit peu avec nous sur RMC, à chaque fois il lui demande, mais ce serait bien qu'on fasse un tour, moi je rêverais de voir ça. T'imagines Romain Grosjean devant et Vincent Moscato derrière, ce serait...
Et après il sort, il fait « Monsieur Puyat, c'est que des pommes par vélo !» Tout ça.
Non, mais il y a déjà un truc qui est pas crédible. Il sort. Non,
il reste
c'est pas possible. Ah, il y a des chances.
C'est vrai, bah, déjà il aura du mal à rentrer dedans. Mais bon, ça arrange.
Question suivante. Imaginons, tu te réveilles dans la peau d'un Charlie Whiting qui aurait les pleins pouvoirs sur le règlement technique. Quelle serait ta première mesure ? Parce que bon, Charlie Whiting, de nos jours, il est juste là pour appliquer les envies des écuries, quoi.
Oui, un petit peu, oui. Charlie Whiting, si j'étais Charlie Whiting, j'aurais déjà des cheveux blancs, je serais plus vieux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je mettrais en place l'idée de Bernie, justement, de tout d'un coup d'arroser le circuit en plein Grand Prix, ce serait formidable.
Ah oui, carrément.
Bah, tu sais, il avait expliqué ça il y a quelques mois, quelques années. Il avait dit, tiens, on fera ça, on mettra des arrosages artificiels et tout pour arroser les Grands Prix. Ce serait marrant, ce serait drôle.
Allez, allons-y.
Non, ce serait complètement con, mais ça, oui. c'est ridicule.
Putain, on a
la
peur.
La proposition était quand même assez ridicule. Mais voilà, ce serait drôle de voir ça.
Oui, c'est vrai qu'à la limite, quitte à virer un mec et avoir les pleins pouvoirs, autant se faire plaisir.
Mais par contre, faut que ce soit moi qui appuie sur le bouton. Comme ça, ce sera en fonction de la course. C'est-à-dire que si Sébastien Vettel a 10 secondes d'avance au 6ème tour, tu vois, une taverne, voilà. Mais juste sur la tête.
Là, il y a quand même des chances que Marc Weber t'appelle en disant, écoute, Antoine, tu vois le petit bouton rouge?
Voilà, c'est ça.
Tu peux appuyer dessus.
Alors, question suivante. Il y a 256 questions, hein, c'est pas grave, ce sera pas long.
Oh, t'as élagué.
Oui, oui. Toute simple, celle-là. Quel morceau de musique mettriez-vous en générique de la F1?
Elle est toute simple. Le problème, c'est que je sais pas c'est la musique qu'on a sur RMC, donc je peux pas donner celle-là. Ah, moi, j'adore le Daft Punk, là, qu'on entend sur toutes les... Je me souviens. C'est Get Lucky, je crois que ça s'appelle.
Oui, ouais, c'est celui-là, oui.
Ah, ça, j'adore, je mettrai ça.
Ah ouais.
La musique de Drive, c'est pas mal aussi.
Du Kavinsky.
Voilà, ah. Exactement.
Ah, elle est géniale, hein, mais sincèrement, cette musique-là, elle est géniale. D'ailleurs, ce film est génial, il faut regarder ce film.
Je suis pas dans la voiture.
Depuis Bullitt, on n'a jamais fait quelque chose de plus sexy.
Question suivante sur la nourriture. Regarder des Grands Prix, c'est gentil, mais on veut connaître la vérité. Quitte à aller un jour sur un GP, c'est dans quel pays où l'on mange le mieux?
C'est en Europe, hein. Ça déjà, c'est sûr. Je dirais que c'est en Italie. En Italie, on mange bien quand même. Là où on mangerait le mieux, ce serait en France. Mais bon, malheureusement, il n'y en a pas.
Oui.
À Monaco, je pense qu'on mange bien, mais pour 300 euros. Donc, je dirais en Italie, ouais.
300 euros, la bouffée, hein.
Oui, oui. L'entrée est à 300 euros.
Ils amusent gueule.
Non, en Italie, c'est sûr. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un paquet de pays où on mange mal, quand même. Bon, après, c'est très bien aussi au Japon, mais faut aimer le riz, quoi, c'est tout.
Alors, question suivante. Vous venez d'acheter le jeu F1 2012. Avec quel niveau de difficulté débutez-vous?
Alors, là, j'ai un problème parce que je ne joue jamais aux jeux vidéo. C'est même pas... Il y a quoi comme niveau de difficulté?
Je crois qu'il y en a 5.
Non, il y a que facile.
C'est même pas non plus. Ouais, ça va être embêtant.
Il y a que facile.
Bah, moi, je joue qu'à facile.
Ah oui, toi, d'accord.
Bah je jouerai, bah remarque c'est pas compliqué, hein, je dirais facile aussi alors, parce que du comme j'y joue jamais.
Bah c'est les aides au pilotage quoi en fait, plus que le niveau
ouais,
de difficulté.
Voilà.
Ouais.
Bah, je mettrais le plus simple, le premier niveau.
Tu joues pas, tu regardes l'ordinateur faire la course, et tu la commentes et tout.
Ouais, je préférerais ça, je pense.
Ouais. Alors, une question prospection. On se croirait dans la question pour un champion, tu sais. Question littérature, indice sur votre écran. nous sommes en 2033 et Red Bull présente la nouvelle RB29 conçue bien évidemment par Adrian Newey. Comment tu l'imagines?
Il aura combien? Il aura 133 ans à peu près.
Ah, c'est que dans 20 ans quand même.
Bah justement.
Bernie aura 133 ans.
T'as raison, Marc, c'est que dans 20 ans. Il a quel âge, Adrian Newey? Il doit avoir la soixantaine.
Ouais, dans ces eaux-là.
Dans ces eaux-là, ouais.
Il aura un petit 80, donc il sera complètement liquide.
Adrien Newey, il est de 58. Donc il a 55 ans.
Il est de 58. Ah bah tu vois, j'étais pas très loin. 35, donc il aura 75 ans. À mon avis, elle sera couverte déjà. Il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut couvrir les Formule 1? Moi, je dirais qu'elle sera couverte. Mm-hmm. Juste pour la pluie. On pourra ouvrir, il y aura... Non, je plaisante. Il y aura un carreau pour ouvrir, pour prendre un peu d'air. Il y aura l'autoradio et tout.
C'est comme le DRS maintenant. C'est-à-dire qu'il y aura un mec qui aura l'air d'appuyer sur un bouton pour déclencher la pluie.
Il y aura 37 arrêts par Grand Prix qui rouleront à une moyenne de 80.
Ils pourront activer la bulle pour se protéger de la pluie, sauf que comme la FIA aura une télémétrie de merde encore, ils pourront pas contrôler s'ils vont mettre vraiment la bulle au moment où il pleut.
Oui, puis t'oublies que ce sera moi qui lancerai la pluie. voilà, on se fera jamais quand est-ce qu'elle arrive.
Prochaine question. Un nouveau pays décide d'organiser un grand prix et de confier le dessin du circuit à un pilote. Lequel leur conseillerais-tu d'engager et pourquoi?
Quel pilote pour dessiner le circuit?
Ouais.
J'ai dit une bêtise. Quel pilote?
Mon gros Jean est éliminé.
Oh, pourquoi?
Bah, il fait qu'un virage.
Oh non, c'est méchant.
C'est méchant.
Mais non, mais je lui donne l'occasion de le défendre.
Il a pas fait de bêtises depuis le début de la saison.
Ah, voilà, ah oui, c'est sûr. Si on tient compte que de 2013.
Il est bien, c'est... Non, mais...
Non, mais le pire, c'est que je dis ça, mais je l'ai défendu bec et ongle à Spa.
Ah, tu l'as défendu à Spa?
Ah ouais. Alors, j'ai défendu... Non. Disons que j'ai pas tapé avec tout le monde.
Disons qu'on a dit aux gens, arrêtez de vous acharner. C'est surtout ça.
Non mais je l'aurais défendu aussi, t'inquiète pas. Sinon, pour en revenir à qui dessinerait le circuit, moi je le donnerais Par exemple, à Guido van der Gaard, parce qu'il a le temps. Il pourrait le faire en pilotant, il pourrait le faire, tu vois. Ou à Max Chilton, il pourrait le faire à deux.
Oui, c'est vrai.
Ils ont le temps.
À la vitesse où ils vont.
Voilà, ils ont le temps, ils peuvent dessiner en roulant, il n'y a pas de problème. Et en plus, ils ont l'argent. Enfin, surtout Chilton, ils ont l'argent, donc ils peuvent faire des trucs pas mal.
Ok, question suivante. Abu Dhabi décide d'ouvrir un musée consacré à la Formule 1 et te propose d'en élaborer le catalogue. Quelles en seraient les 5 pièces maîtresses?
Non, elles sont pas si faciles, hein, ces questions, finalement. Ce serait quoi le principe du musée?
Un musée sur la F1.
Faudrait mettre 5 objets, quoi. Une statue, un truc comme ça.
Ouais. Sur la F1.
Je mettrais la statue de Bernie, très important.
Oh, tu le mets momifié direct.
Non, oui, enfin non, c'est pour payer moins cher les droits. Payer moins cher les droits radio, on mettrait la statue de Bernie.
C'est pas bête. Oh putain, on va faire ça les mecs. Bah, j'ai une cave là, bah je vais mettre une statue de Bernie.
Exactement.
Je suis pas sûr qu'il apprécie des masses, mais bon.
S'il est pas au courant, c'est dommage quand même. Je mettrai un petit photo d'Ayrton Senna quand même. C'est obligé. Si tu ouvres un musée de la Formule 1, pour une fois, soyons sérieux pour une fois, tu mets Ayrton Senna.
Ah, t'étais pas sérieux avant?
Non,
merde.
Donc il m'en reste 3 choses à mettre. La Ferrari de Patrick Tambay, quand il est gagné, c'était en Allemagne, je crois. Ou être corporate. Quand même.
Tu vois, on va y avoir la Lotus de Romain Grosjean.
Ouais, la Lotus de Romain Grosjean, après Spa.
Ah, un César.
Belle pièce. Ouais, un César, ce serait bien pour un César. C'est à peu près la couleur. Donc il me reste une chose à mettre.
Oui.
Je mettrai une grande affiche du SAV de la F1. Ce serait magnifique à l'entrée sur la porte.
Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est gentil. Petite Claire Michel.
Ouais, voilà.
Et pourquoi ça monte sur la porte?
Partout. Oui, c'est vrai, on pourrait tapisser carrément, la mettre à l'entrée, un paillasson. Bah non, parce que sinon c'est pas sûr.
C'est pas grave, on prend.
Et vous, qu'est-ce que vous mettrez dans ce musée alors? Parce que 5 trucs, ça suffira pas pour faire un musée.
Ah, on mettrait une statue d'Antoine Arlot.
Ouais, c'est pas mal.
La licence de pompe, le gars qui veut pas avoir à ta gueule, hein, franchement.
Pas mal.
Ouais, je fais avec ce que je peux, les mecs. Hein. J'en ai marre de me taire.
Non, c'est vrai que c'est une question dure. Après, on a tous nos goûts en matière de F1. Moi, la Williams de 92, autant esthétiquement que techniquement.
Ah, moi, j'étais pas né, ça, je peux pas la mettre. Je la connais pas.
Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, je mettrais Sébastien Vettel.
Le vrai?
Je mettrai tout, je mettrai Sébastien Vettel avec des petites bougies devant pour faire ma prière devant. Voilà.
Oh bah dis donc.
Pour louer sa grandeur. Mmh. Voilà. Et à côté, il y aura une petite statue de Fernando Alonso.
Soyons sobres, hein.
Genre plus mobile, mais voilà. Bon, toi, Shinji, tu mettras un glaçon.
Pardon?
Ah non, bah moi je sais, hein, je mettrai le premier verre qu'ait jamais bu Kimi Raikkonen.
Ah, un biberon, c'est beau.
Un biberon de vodka. Passe à la question suivante, messieurs.
Mmh. Allons-y.
Un producteur de cinéma te consulte pour réaliser un film sur la F1. Quelle époque ou sujet l'inviterais-tu à traiter? Bon, à part Senna et 1976, quoi, c'est déjà fait.
Ah, c'est déjà fait. Ben, il y en a un autre qui va sortir. J'ai vu cet après-midi. C'est un film sur Jackie Stewart qui va sortir pendant le Festival de Cannes, qui est très bien. C'est un film, c'est Polanski qui a réalisé. En fait, qui avait fait un film sur lui, je sais plus quelle année. Dans les années 60, dans les années 70. Et là, il a ressorti le film qui traînait dans un garage à Londres et qui allait être détruit. Enfin, voilà. Et donc, il l'a ressorti et ça va sortir au Festival de Cannes. Et j'ai pas le droit d'en parler parce que comme c'était l'avant-première n'a même pas eu lieu encore parce que ce sera à Cannes.
Ouais.
Interdit d'en parler, pas de tweet, rien. C'est tout ce que je dirais.
Mais écoute, le SAV est là pour ça.
Tout ça pour vous dire que je ne ferai pas donc pas non plus un film sur Jackie Stewart puisqu'il a déjà été fait. Et puis il faudrait faire un truc sur plus récent quand même parce que c'est vrai qu'on a l'impression que depuis Ayrton Senna il s'est rien passé mais c'est passé quand même pas mal de choses.
Mais sincèrement la question importante c'est est-ce que dans ton film tu insisterais sur la notion de pure victoire?
Pure victoire.
c'est le grand concept qui a été introduit par Sylvester Stallone dans Driven. C'est le sentiment de pure victoire.
Ah ouais, j'insisterais beaucoup sur la pure victoire alors. Non, mais ce serait bien de faire un film, enfin, c'est aussi historique, mais surtout les combats qu'il y a eu entre coéquipiers qui, parfois, parce qu'on sait pas tout, il y a des trucs, à mon avis, qui sont très, des histoires qui doivent être super fortes sur les bagarres entre coéquipiers, parce que c'est souvent dans une équipe qu'il y a les plus, enfin, c'est l'habitude de dire, mais c'est vrai, les plus grosses rivalités, des anecdotes et des trucs passionnants vraiment à raconter.
Bah là, c'est vrai qu'il y a Jones, par exemple, qui est revenu sur la rivalité avec Rotman en 81, qui coûte le titre aux deux pilotes Williams et qui n'est pas non plus sans expliquer en partie la décision d'Alan Jones de se retirer à la fin de la saison parce qu'il se sentait trahi par Rotman. Et alors, Rotman était venu pour enterrer l'âge de guerre et Jones lui a répondu oui dans ton dos. Sympa.
Ouais, il y a plein de choses comme ça, mais il y a plutôt que de prendre un pilote, on ferait une histoire autour de ça. Je suis sûr que ce serait pas mal. Le problème, c'est que quand tu veux faire un film sur la Formule 1, pour s'adresser à Bernie pour acheter les images, et là tout de suite, c'est des films qui coûtent cher.
Ah là, c'était à 50 millions.
Ah si, j'ai 50 millions, ouais. C'est pas juste ce qu'il faut, c'est pas juste. Hein.
La question suivante allait être l'avant-dernière, mais en fait, tu as répondu tout à l'heure, en fait. Quel sportif en dehors du sport mécanique rêverais-tu de voir dans une Formule 1, donc Vincent Moscato?
Ah oui, ce serait magnifique. Un rugbyman, en tout cas, parce que ça, ce serait déjà rien que pour le plaisir de le voir essayer de rentrer dans une Formule
1. Chabal.
Chabal, il mettrait même pas le casque.
Ah, Chabal, t'es obligé de le mettre debout. Accroche-toi.
Il bouge l'entraîneur.
Pour aéro, c'est pas terrible.
Ouais, pour le look, c'est génial.
Et donc, dernière question. Tu pars faire du camping et tu peux embarquer 4 autres personnalités, passées ou présentes, de la F1 dans ton combi Volkswagen. Lesquelles et pourquoi?
Déjà, c'est sûr que voir des pilotes de Formule 1 faire du camping, déjà, ça peut être un grand plaisir. Alors, ce qui est sûr, c'est que je prends Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, parce que qui dit camping, il y a apéro, tout ça, donc ça, c'est important. Bon,
il amène sa glacière.
Déjà, il y a peu de chances que j'aille faire du camping parce que je vais hors de ça, mais là, si je devais emporter, faut prendre des bons organisateurs, quoi. Je vais prendre ceux que je connais de maintenant, parce que moi, ouais, je suis pas à la Formule 1 depuis très longtemps non plus. Enfin, je suis dans la quatrième année. Donc, Kimi, c'est important pour les glaçons, pour la glacière, c'est vachement important. Fernando Alonso, pour les soirées, ça, c'est capital, parce que quand même aller faire quelques soirées, Alonso, il s'y connaît.
Ça, c'est un gros fêtard, Alonso?
Ah oui, c'est un fêtard, Alonso. Ouais. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais lui, il est réputé pour être un grand fêtard.
Parce qu'il a plutôt tendance, aujourd'hui, à donner l'image de quelqu'un, c'est limite un moine tibétain à 7 et tout, qui fait du sport et compagnie.
Je confirme que c'est pas un moine tibétain, non.
C'est vrai, quand même, toi, quand on voit sa copine, on se dit, il est pas tibétain, lui, non?
Non? Laquelle?
Ouais. Ah, c'est le nouveau Button, en fait, Alonso.
Ah, je pense que Button est plus moine tibétain que Alonso.
Hein. Putain la vache.
Il est rangé des voitures, Button, maintenant. Hein. Jessica, oui, hein. Elle le mène à la baguette. Hein.
Oui, d'ailleurs, cette année, il est vraiment rangé des voitures.
Ouais, enfin, comme son coéquipier, quoi.
Oui.
Ça nous dit pas qui va conduire la voiture. Le combi Volkswagen. Sébastien Loeb, j'ai le droit, je suis obligé de prendre de la Formule 1 ou je peux prendre un peu de rallye?
Ah bah Loeb a fait de la F1.
Il l'a fait, oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est le SAV de la Formule 1. Ouais. Sébastien Loeb, dans le combi Volkswagen, c'est pas mal, il pourrait prendre les chemins.
Oui, ah, non, bah, c'est très drôle.
Là, tu peux prendre Sergio Pérez, hein, c'est pareil. Hein, il a l'habitude de rouler dans le gravier. Paul fait dans le gazon aussi d'ailleurs. Donc pour le camping, c'est parfait. Hein. C'est bon, il m'en manque un.
Hein. Ah, il t'en manque un, je crois.
Oui.
Ouais, j'ai dit Raikkonen, Alonso, Pérez. Alors quel pilote aurait intérêt? Ah, Sergio Pérez, j'ai déjà mis à la conduite parce que pour monter la tente, c'est pas mal aussi.
C'est pas forcément des pilotes après. On peut ouvrir aux autres personnalités.
Ah oui, tu as raison. Eh ben, je vais prendre Adrian Newey alors, parce que pour confectionner tout ce combi Volkswagen, à 5 dedans, il faut quand même trouver de la place.
Et c'est vrai.
Adrian Newey, ce serait parfait. Lui, il nous fera un intérieur de folie.
T'imagines le combi Volkswagen dessiné par Adrian Newey?
Ah oui, ça dirait du frigo pour faire des échappements. Enfin,
l'espace F1 à côté, c'est de la merde.
Non, ce serait magnifique. C'est autre chose qu'un Tweedy.
Non, une pelle à tarte électrique. Ou un ramasse-miette de rue.
Sébastien Vettel qui va l'essayer le Tweedy F1 en rentrant de Barcelone, le lendemain de Barcelone.
Ah, ouais, bravo Sébastien.
À Boulogne, Boulogne-Billancourt.
Bah, c'est un joli combi Volkswagen, moi, je trouve.
Ouais, ce serait pas mal.
Et globalement, ce sont de bonnes réponses.
Ah oui.
Je trouve aussi, ouais, je trouve que j'ai été plutôt bon sur cette question.
Alors, on doit prévenir, hein, c'est, toi, t'as un désavantage, tu connaissais pas les questions.
Bah voilà, bon, c'est ça.
On posera les mêmes questions à nos prochains invités. Voilà.
Ouais, mais ils vont te dire des pilotes de 1934.
Il y a des choses. Hein.
Ils vont te sortir des noms que personne ne connaît.
Ouais, ils vont faire du name dropping.
Alors, là-bas, il va falloir qu'on fasse des fiches, les mecs.
Les mecs, on te trouver un Kazakh qui a fait un demi-grand prix en 1947.
Ou un Polonais qui fait des tags.
Voilà, oui.
Zino,
les auditeurs sont habitués. Qui dit heure de gloire de l'invité, on est obligé de passer par le pour pas pour. Et ça va être l'occasion pour toi, Antoine, de revenir un peu sur les actus des dernières semaines, mais globalement sur les actus qui ont marqué l'intersaison, les derniers mois, et de nous donner un peu ton opinion sur les actus. Donc le principe du pour pas pour est très simple.
Attention, tu vas être surpris.
C'est soit je suis pour, soit je suis pas pour.
Voilà, c'est grosso modo, soit t'es pour, soit t'es pas pour. Voilà, je vais te faire 10 propositions.
Il faut que je tire la carte mystère qui va me donner le droit. De... Non, au jeu, on a l'air très compliqué.
Là encore, c'est simple. T'as pas vu les émissions spéciales jeux où même nous, on a du mal à comprendre les règles. Donc là, en fait, je vais te faire 10 propositions d'actualité. À chaque fois, tu me diras si tu es pour ou pas pour. Et à la fin, tu pourras revenir sur 3 sujets de ton choix pour approfondir un peu et nous donner ton opinion.
Très bien.
Donc quand tu es prêt, tu me dis je suis prêt et je commence.
Je suis prêt.
Alors, pour ou pas pour l'introduction des Vestis Turbo à partir de 2014 ?
Pour.
Pour ou pas pour Luis Razia ?
Pas pour.
Pour ou pas pour les 89,34 versions différentes du casque de Sébastien Vettel ?
Ah, pas pour.
Pour ou pas pour le retour de Michael Schumacher en Formule 1 entre 2010 et 2012 ?
Ah, pour.
Pour ou pas pour l'AF1 sur des chaînes payantes ?
Ah, pour.
T'as vu, hein, j'ai été gentil, j'ai pas cité pour pas te griller. Je me suis dit, voilà, s'il dit pas pour Canaplus, ça va peut-être le griller.
Totalement pour, attends, ça nous fait, nous, beaucoup plus d'auditeurs.
C'est vrai.
Mais oui, forcément.
C'est vrai que nous, Canaplus aussi nous fait un peu du bien, parce que du coup, il y a plus de gens qui écoutent le SAV.
Non, entièrement pour.
Pour ou pas pour Rush, le film.
Pas vu, ça y a pas.
Mais t'as vu la bande-annonce ?
J'ai rien vu du tout.
T'as rien vu du tout ?
J'ai rien vu, même pas les rushs.
Bon alors, pour ou pas pour Stewart, le film ?
Ah aussi, pour. Ah.
Pour ou pas pour l'organisation d'un Grand Prix à Bahreïn ?
Pas pour.
Pour ou pas pour Jean Todd ?
Pour.
Bon, normal, il y a des accréditations.
Non, c'est pas lui qui me les donne en plus.
Moi, ah merde.
Non, quand on paye, c'est Bernie. Jean Todd, il donne les gratuites.
Ah, merci Jean Todd. Nous, on n'a rien dit.
Pour vous, ce serait Jean-Todd, oui.
Avant-dernière question, pour ou pas pour enfiler les costumes de scène de Nicole Scherzinger comme Lewis Hamilton en son temps ?
Pas pour.
Ah, dommage, ça tirait bien.
Mais en gros, je suis pas pour grand-chose, ça m'inquiète.
Et enfin ?
Ça m'inquiète, je vais devenir Thibault Larue.
J'espère que t'es pour la dernière. Mais j'espère vraiment. Attention, c'est la question. La seule qui compte, véritablement, soyons honnêtes. Pour ou pas pour le Hungaroring.
J'en étais sûr.
Bah pour.
Pour.
Ah oui, pour.
Ah ouais, bah vous voyez, voilà, voilà. Alors là, personne ne peut me contredire. Voilà.
Pourquoi on serait contre ?
C'est ce que je m'évertue à dire aux gens.
Ça fait 4 ans et demi qu'on en débat dans l'émission.
Ah moi j'adore en plus aller là-bas. Non, totalement pour.
Bah voilà. Donc c'est vrai que t'es un peu l'opposé de Thibault Larue.
Pourquoi ?
T'es pour pas mal de choses.
Ah non, pas tant que ça. Non, mais je plaisante. Hein. Parce que vous allez lui répéter. Après, de toute façon, il va écouter. Parce que vous allez l'inviter bientôt.
Oui, ça sera répété.
Ouais, je vais lui passer l'extrait.
Ah bah on va lui passer toute l'émission.
Non, mais c'est vrai, je l'ai vu dans les spécialistes sur Canal. Enfin, j'ai pas Canal, mais j'avais vu parce qu'ils avaient mis un truc gratuit sur leur site. Parce que j'ai pas acheté Canal pour la Formule 1, si tu veux, j'aurais du mal à les regarder. Les mais c'est vrai ça a l'air d'être un peu le ménèse de la Formule 1. Donc, moi j'aime bien, j'adore. Tu l'as dit d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis, lui il sera pas pour.
Ah, j'ai hâte. On sera deux grincheux dans l'émission, c'est bon. Donc tu as le droit de revenir sur 3 sujets de ton choix.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Luis Razia. Ah. J'ai dit que j'étais pas pour, faut quand même dire. Mais pourquoi le pauvre ? Enfin, le pauvre. Pas oui. Que ce soit le mot.
Ah, quoique, aux dernières nouvelles, il est pas riche.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas assez riche.
Pour se faire griller par Jules Bianchi, quand même.
Non, en plus, pas pour. Oh, ça fait méchant. Parce que Jules a beaucoup. Enfin, il a du talent. C'était.
Je trouve oui, que voilà, c'est ça. Pour lui, c'est que... voilà. Bianchi est riche de talent, il n'est pas riche d'argent.
Voilà, exactement. Oui, il en a un petit peu, mais c'est vrai que sinon il serait chez Force India d'ailleurs. Il en aurait tout à fait les qualités. Non, mais j'ai dit contre parce que ça reste quand même Luis Razia, un pilote. Enfin, il a certainement du talent, mais enfin bon, c'est quand même la Formule 1. Et c'est plus pour le côté. Ces dernières années, on voit quand même arriver. Bon, ce qu'on a déjà vu dans le passé, mais ça revient en tout cas. Ce principe de pilote payant, moi,
c'est vrai que cette année, ça revient fort. Hein.
Ouais, et puis le problème, c'est que je pense que ça va pas changer, loin de là, et c'est dommage, quoi, parce que maintenant, tous les pilotes, pour arriver en Formule 1, il suffit pas d'avoir du talent, il faut avoir de l'argent, et le talent, ça passe en deuxième, voire en troisième place, hein, parce que quand on voit les pilotes qui sont arrivés cette année, ça fait mal, quand même, hein, ça fait mal. À part Jules Bianchi, c'est pas du chauvinisme, parce que franchement, il a du talent, et on en parle beaucoup dans le paddock, parce qu'il impressionne pas mal, mais sinon, il y en a quand même qui sont arrivés, on sait pas de nom.
Oh, bah, à partir du moment donné où t'as dit à part Jules Bianchi.
Oui. Non, mais par exemple, un mec comme Bottas, c'est compréhensible aussi parce qu'il a toujours été un petit peu dans cette filière avec Williams, donc ça ne choque pas non plus. Mais il y en a, Gutiérrez, Van der Garde. Enfin voilà, c'est un peu de Max Hilton. Alors là, je pense que c'est le pire. Enfin, c'est un peu étonnant, quoi. Et Max Hilton, ça se comprend parce que ses parents sont un peu les reines de l'équipe, donc
oui.
Parce qu'ils mettent pas leur fils quand même.
Ça serait con quand même qu'ils le virent. T'es trop nul en fait, on t'aime plus.
Je pense qu'il a assez peu de chance, oui. Il est tranquille de ce côté-là. Ils vireront plutôt Bianchi parce qu'il fait de l'ombre à au fils.
Mais c'est ça qui est terrible en fait.
Non, mais ça, je plaisante, hein, ça n'arrivera certainement pas, mais
bah disons que si jamais ils le virent, on peut penser que il y aura des candidats. Pour l'engager.
Ah oui, certainement, certainement. Bah, il y a Dominique Ali qui nous a dit à RMC, c'était à Bahreïn, je crois que c'était à Bahreïn, bon, je
oui.
sais plus, qu'il le verrait bien dans l'avenir conduire pour Ferrari, donc ce serait pas mal. Et il en aurait la possibilité, en plus, il s'entend plutôt bien avec Alonso, donc pourquoi pas.
Ah, alors ça, c'est un truc qu'on sait pas, ça que, au niveau des relations entre les pilotes, ça que, nous, notre regard extérieur qui sommes pas vraiment présents dans le paddock, ça que c'est le type de choses qu'on a pas. Et donc en fait ils s'entendent bien Alonso et lui.
Oui bien sûr ils s'entendent bien, ils donnent des conseils, non ils s'entendent très bien.
Est-ce qu'ils mangent ensemble?
Ah ça loi leur arrive. Alonso mange avec Weber aussi, on l'a vu sur Twitter, ils ont le même manager d'ailleurs.
Ah c'est qui? Attendez. Je suis sûr qu'il est innocent. Je me rappelle pas qui c'est mais je suis sûr qu'il est innocent.
Cherche à gorille dans le dictionnaire.
Alonso s'entend bien avec avec Grosjean aussi, il a gardé de très bonnes relations avec Romain depuis qu'ils sont passés ensemble sur Renault.
Ouais, ça que l'an dernier, c'est vrai qu'il avait pas beaucoup taclé Grosjean.
Non mais c'était facile l'an dernier de tacler Grosjean. Ce qu'avait fait Robert par exemple.
Oui, c'était pas gêné. Ouais.
C'était un peu facile et lui mettre comme ça la pression au Grand Prix derrière, ça, en sachant qu'il était la gorge, donc c'était bon. Et Alonso est quelqu'un de certainement de fair play.
Alors ensuite, un deuxième sujet sur lequel tu voudrais revenir.
Alors le problème, c'est que je me souviens pas de tout.
Alors l'introduction des V6 turbo, le retour de Schumacher, les 89,34 versions différentes du casque de Sébastien Vettel.
Ah oui, alors ça, si tu veux, je reviens là-dessus, parce que... Non mais il n'y a pas que Vettel, hein, parce qu'il y en a plein qui font ça. Ils changent toujours leurs trucs, ils font des concours, des machins pour les sponsors et tout, donc tout le monde parle du casque. Mais le problème, c'est que nous, il nous faut une liste avec tous les casques bientôt pour à chaque Grand Prix pour les reconnaître, pour commenter. C'est...
Et encore, des fois, ça suffit pas. Regarde Mercedes.
ouais, non mais. C'est...
Nous, il faut la pointure de chaussures pour distinguer les pilotes, les pilotes Mercedes.
Mais voilà, ça c'est, faudrait pas qu'ils changent tout le temps, quoi. Bah après, il y a aussi le système des caméras embarquées. Sauf que cette année, ils ont un peu changé les couleurs. On voit un peu moins bien, on distingue un peu moins bien. Mais enfin bon, c'est de s'en sortir.
Oui, cette année, il y a une caméra avec un sticker jaune, je crois, et l'autre qui a plus de stickers.
Le jaune est resté.
Ouais, et c'est le rouge qui y a plus rouge, quoi.
Et noir. Il y a plus, mais ça se voyait mieux en rouge. Mais enfin bon, c'est pas grave.
Mais en fait, ça c'est pour donner un avantage technique au leader. Sa voiture est plus.
Ah oui.
Ah oui.
Alors ensuite, est-ce que t'as un autre sujet dont je te rappelle la suite, la F1 sur les chaînes payantes, bon pas le film Rush mais le film Stewart, l'organisation d'un Grand Prix à Bahreïn, Jean Todt, le Hungaroring, bon, on en a un peu parlé, et enfiler les costumes de scène de Nicole Scherzinger comme Lewis Hamilton dans son temps.
Grand Prix à Bahreïn, bah j'ai dit non, je crois, j'ai dit non.
Ouais.
J'ai dit pas pour. Bah ce qui est un peu pénible, c'est que. C'est tous les équipes, tous les patrons d'équipe, etc., qui Ils ont toujours les mêmes réflexions. C'est le sport. Moi, c'est une réflexion qui m'énerve. C'est pour ça, parce que sinon, aller dans un pays où il y a quelques soucis politiques, moi, je pense que la seule réponse ce serait que garde pas. Et sinon, je veux te dire qu'on va pas aller à beaucoup d'endroits, parce qu'on va plus en Chine non plus à ce moment-là.
Oui.
On va pas aux États-Unis parce qu'il y a la peine de mort. On va pas. Enfin, il y a plein de pays où. On va pas à Singapour parce que c'est pas non plus extraordinaire.
Non, Singapour, t'as pas le droit de machin chewing-gum.
Oui, voilà, exactement. Donc voilà, à ce moment-là, tu vas nulle part. Mais quand on entend le « Ah, oh, mais la F1 peut aider », etc., mais ça va aider quoi, à la forme ? Dans leurs problèmes, ils ont des problèmes sur des soucis de religion, de politique. Qu'est-ce que va aider la Formule 1 ? Non, ça va pas aider. Par contre, on ne doit pas s'en mêler, et puis voilà, quoi. Mais sur le « Voilà », quand j'entends tout le monde dire « La Formule 1 peut aider », etc., qu'il y a le prince héritier qui vient dans le paddock, etc., avec tous les journalistes autour, ça m'embête un peu, je préférais qu'il y ait personne qui vienne et qu'on fasse un Grand Prix normalement, et puis voilà quoi. Mais après, on peut dire que la Formule 1 ne doit pas y aller, c'est chiant ce que je dis, hein. C'est pas le ton de l'émission.
Ah, non, non, c'est au contraire. Alors le SAV, c'est ça, c'est des moments très chiants et des moments très...
Très con.
Donc là, c'est le moment très chiant, d'accord, je te remercie.
Voilà. Non, c'est le moment très divertissant, le moment chiant, c'est les blagues que je fais de temps en temps.
Mais il y a d'autres événements sportifs qui vont à Bahreïn et personne n'en parle. Il y a des tournois de golf, plein de choses comme ça, et ben, personne n'en parle, donc on se focalise un peu trop sur la Formule 1, mais enfin voilà, quoi, je crois que j'ai répondu.
Mais justement, toi qui étais à Bahreïn, je m'en fous. Alors, parce que nous, quand on trouve des moments bien chiants, on veut vraiment y aller.
C'est ça,
quoi.
On coupe pas les moments bien chiants.
Nous, on veut perdre des auditeurs. Il y a pas d'audimat chez nous.
Ah, non, faut plus en perdre, comme ça, tu seras content quand tu vas les retrouver, ça augmentera.
Voilà. Mais, toi qui étais là-bas, concrètement, comment ça se... Enfin, comment tu vis ton week-end là-bas ?
Bah, pour nous, ça change rien. Moi, l'année dernière, j'étais allé dans les manifs avec Julien Fébreau, justement, à l'équipe. À l'époque, on avait fait un petit reportage, enfin moi pour RMC, BFM et lui pour l'équipe, sur les manifs, donc on y était allé. C'était assez chaud, mais il n'y avait pas non plus 3000 personnes, hein. Il y avait peut-être 300 personnes. Bon, après, c'est vrai que les forces de l'ordre ne rigolent pas vraiment, hein. C'est assez chaud. Maintenant, si on veut rien voir, on voit rien. Moi, cette année, j'ai pas suivi ça. J'ai fait une interview de la personne qui est représentante de l'Association des droits de l'homme à Bahreïn, parce que je pense qu'il faut quand même en parler un petit peu. Donc, on a fait une interview avec... mais sinon, si on veut rien voir, on voit rien. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de checkpoints pour arriver jusqu'au Grand Prix, de contrôle policier où ils regardent nos passes, nos locations, etc. Mais si tu veux, il y a pas de. Enfin, moi, j'ai jamais vu de voitures brûlées, de gens envahir les rues, etc. Certains l'ont vu, hein, puisque l'année dernière, c'était arrivé, mais. C'est pas non plus la guerre civile. Après, quand l'année où ça a été annulé, là par contre c'était très chaud parce qu'il y avait eu des courses de GP2 notamment. C'est-à-dire que ceux qui y étaient, ils s'en souviennent, ils ont un souvenir quand même assez fort de ça.
Ouais. C'est ça qu'on devait faire des essais. Enfin, il y avait eu des courses de GP2, il y avait eu des essais qui avaient été annulés de la F1 et les courses de GP2 avaient été maintenues.
Ouais, enfin finalement annulées, mais ils avaient commencé. Ils avaient arrêté au milieu du week-end parce que là vraiment c'était assez. Quoi. Tout le monde était retranché dans les hôtels, c'était pas pareil.
Et est-ce que aujourd'hui, il y a, en dehors de Bahreïn, il y a un pays où c'est particulièrement difficile de travailler quand on est dans le paddock?
Bah le pire endroit, c'est Monaco pour d'autres raisons. Mais moi, si tu me dis il y a un Grand Prix que tu fais pas, je pense que je choisis Monaco. Et non, c'est très dur, Monaco, parce que si tu veux, on a des accès, et on a des accès partout sur les 9 ou 20 Grands Prix de la saison, et à Monaco, tout est beaucoup plus compliqué, il faut toujours négocier, les gens sont, je vais pas me faire des copains, mais les gens sont pas forcément, les monégas sont pas forcément les gens les plus sympathiques du monde, la police, ils se prennent pour des cow-boys, donc c'est un peu compliqué, moi une fois, je cherchais mon chemin, j'avais rendez-vous pour aller dîner dans un restaurant à Monaco, je retrouvais pas ce restaurant, je savais que j'étais dans le bon quartier, mais je trouvais pas le restaurant, donc je rentre chez un fleuriste qui était ouvert, dame qui était là, je dis bonjour madame, excusez-moi, je cherche ce restaurant, est-ce que vous savez où c'est ? Réponse, il n'y a pas marqué office du tourisme. Voilà, très sympathique.
Ils ont senti le pauvre qui était en toi.
Voilà. C'est sûr qu'on est pauvre. Mais ouais, Monaco, c'est le plus dur. Pour travailler, c'est sûr que c'est le plus dur, il n'y a aucun doute.
Et le plus agréable ?
Après, partout ailleurs, c'est agréable, hein. A priori, en principe, y a pas trop de soucis, bon, je sais pas, je voudrais pas t'en dire un, parce que, franchement, ils sont tous, assez, enfin, nous, moi, on a des accès qui nous permettent d'aller, quand même, pas mal d'endroits, donc, C'est à peu près agréable. Après, il y a des grands prix qu'on aime plus ou moins bien. On en parlait tout à l'heure avec, moi je disais l'Australie, mais après c'est tout ça. Ils sont assez agréables finalement. Il y a ceux où il y a personne, donc ils sont contents de nous voir, comme la Chine, la Corée. Ils sont contents de nous voir, donc c'est. Alors quoique la Chine, je suis pas sûr que ce soit le plus agréable, comme ils comprennent rien.
Ouais, ça qui regarde la course, bah en même temps faut dire aussi que les courses sont pas toujours très claires
en Chine. Ouais, mmh. Ouais, bah surtout.
Il y a beaucoup de brouillard.
Surtout cette année, hein.
Mais elle était très claire cette course, merde.
Ah, tu as trouvé ça clair, bah, c'est gentil.
Moi j'ai tout compris.
On a commenté les stands en fait tout le Grand Prix, donc c'est sympa. Non mais c'est très dur à commenter la Chine. Je pense qu'elle était pas, elle était aussi claire que Bahreïn ou d'autres, ou même que la Malaisie, mais à commenter c'était un calvaire.
Et qu'est-ce qui fait que c'était un calvaire?
Ah bah parce que il y avait, les stratégies étaient telles que il y avait toujours du monde dans les stands. C'est-à-dire que souvent c'est, même s'il y a à Bahreïn par exemple, bon voilà, il y a eu 3-4 arrêts. Mais c'était par vague et tout le monde arrivait à peu près au même moment, donc on peut commenter la course. En Chine, il y avait tout le temps des gens dans les stands. Donc, bah, comme il faut bien expliquer quand il y a des gens dans les stands, pour que les gens, même si on l'a certainement trop fait en Chine, et pour que les gens sachent qui s'est arrêté et quand. Sauf que là, il y a tout le temps des gens dans les stands, donc à un moment, on s'en sort plus, quoi. Surtout qu'on a des images qui sont quand même un moment assez limité, quoi. Donc,
il y a même des mecs qui vont dans des stands qui sont pas leurs stands.
Oui, en compte. Et ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois en plus.
Ah, il y a eu Button il y a 2 ans et puis Hamilton cette année.
Cette année, c'était magnifique. Elle a vexé quand on lui en parle, ça le vexe, mais bon, c'est drôle.
Un peu d'humour, Lewis, merde.
Oui, je suis pas sûr que ce soit le trait de caractère qui le caractérise le plus.
Ah, pourtant, il a mis les combinaisons de Nicole.
Oui, oui. Ah non, mais il peut en avoir, je suis pas sûr que ce soit le plus drôle de la note, mais.
Quand il a essayé de faire de l'humour à Monaco en 2011, plus que ça a donné, hein.
Non, mais après, nous, pas de rapport avec lui, enfin, j'ai pas de rapport avec lui. Intime.
Ouh. Avec qui tu as des rapports intimes?
Avec d'autres non plus, remarque. Non, je suis exprès sur Flexmo. Mais on n'a pas de rapport proche avec Hamilton ou avec le reste des pilotes, d'ailleurs.
Alors ensuite, pour terminer cette heure de gloire, 3 petites questions. Quelle est l'actu ces derniers mois dont tu n'as strictement rien eu à foutre?
Qu'est-ce qu'il y a eu comme actu?
C'est généralement ça là, elle est dure, parce que comme on n'en a rien eu à foutre...
Ah oui, c'est bon. Ça. Merci de constater que ta question est complètement con.
Mais j'en ai conscience, c'est pour ça que je la pose.
Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme actu? Aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a eu comme actu?
Dont on n'a rien eu à foutre. Oh, le transfert Lewis Hamilton chez Mercedes.
Ah non.
Le retour de Kimi Raikkonen.
Non, ça c'est important. C'est important. Je vais être méchant, j'allais dire un truc, mais ça va pas vous plaire.
Vas-y, balance.
Non, j'allais dire c'est non, mais c'est méchant parce que c'est un bon pilote, mais le retrait de Barrichello finalement.
N'aie pas peur.
Ah oui, on lui a asséné quelques cartouches dans cette émission.
Non, mais enfin le pauvre, enfin il est, c'est dommage parce que il est parti en se faisant virer alors qu'on aurait aimé que. Il se parle de lui-même, quoi.
Ouais.
Non, de toute façon, il serait pas là cette saison parce que finalement, on l'a compris très vite. Dommage qu'il parte comme ça. Quoi.
Mais ce qui est terrible, c'est que Barrichello est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours en train enfin, c'est un mec du passé de la F1 maintenant, mais on a l'impression qu'il y a que lui qui l'a pas compris.
Bah, normal, dès qu'il y a un truc, il dit, ah, n'oubliez pas, je suis là. Oui, mais c'est bon.
Il est consultant pour la télé brésilienne.
Oui.
Maintenant, il était là à Bahreïn, c'était la première fois qu'il était là en tant que consultant avec sa chemise orange. Et en fait.
D'ailleurs, la présentatrice de la télévision brésilienne est plutôt mignonne.
Ah bah, c'est pas la seule, ouais.
Ah, Lee McKenzie.
Peut-être d'autres présentatrices. Ah, que j'ai beaucoup côtoyé, j'étais souvent avec elle dans les zones d'interview. Maintenant, elle est passée sur Sky, je crois. Elle était radio avant, mais maintenant, elle est passée sur Sky. Et donc, pour en revenir à Barrichello, il était là, donc, à Bahreïn. En fait, il y a un truc, quand on fait la grille et le commentaire, et c'était son cas, qui est toujours un petit peu dur, un petit peu physique, on va dire, c'est de passer de la grille à la cabine commentateur en une pub, ou en très peu de temps, pour vite parater le départ. Et à Bahreïn, il y a un long tunnel, et puis en plus, il fait 35 degrés, donc c'est pas... Donc, faut courir, on arrive en nage dans les cabines, et moi, je prends l'ascenseur qui monte au cabine avec Barrichello, complètement en nage, la chemise ouverte, transpirante, partout. Et il râlait, il disait, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça à chaque fois. Je fais, si. Il n'y a pas que pilote qui a un métier difficile. Hein. Donc il s'est rendu compte que journaliste, c'était pas facile aussi. Vous auriez vu un âge, on avait l'impression qu'il terminait le Grand Prix de Malaisie, quoi. Non, il avait juste fait 500 mètres en courant.
C'est pathétique.
Non, mais j'étais pareil, hein, on est tous dans le même état, dans ces cas-là.
Oui, non, mais voilà, mais non, mais toi, tu prétends pas dire, s'il y a jamais eu un baquet, je reviens.
Il y a que David Coulthard, finalement, qui lui est toujours au sec. Alors, je sais pas quand il fait, toujours impeccable, David Coulthard.
Mais il y a Karen Minier qui sort, des lingettes et tout.
Peut-être, mais en tout cas, lui est toujours impeccable, il peut marcher, machin. Lui, c'est pareil, il passe de la grille aux cabines, on est souvent, on se suit souvent dans les tunnels ou dans les ascenseurs, et lui est toujours impeccable, parfait, la chemise nickel, au sec, je sais pas comment il fait. Ouais,
et t'es content quand tu dépasses David Coulthard dans un couloir?
Bah, souvent, je suis devant lui.
Tu dis, ouais, j'ai dépassé David Coulthard, je suis devant.
Bon, je suis devant lui parce que, bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce qu'il faut que je sois plus vite, je pense, en cabine, donc lui, il prend son temps, y a pas de problème et tout. Et
toujours... Il peut arriver en retard.
Oui. Bah, c'est-à-dire que...
Par contre, Barrichello, lui, t'es passé dans le couloir.
Coulthard, tu vois, c'est pas lui, c'est le Grand Prix qui attend David Coulthard pour pouvoir démarrer, quoi.
Norris.
Voilà, c'est Norris, quoi.
David Coulthard, c'est l'échec Norris de la F1. C'est
bon, ça. Il signe, il y a Charlie Whiting, et c'est bon.
Alors ensuite, quelle actualité, en dehors des Grands Prix, aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Comment ça, en dehors des Grands Prix?
Bah, en dehors d'un résultat, d'un vainqueur ou ce genre de choses.
Mais sur la Formule 1 quand même, on est d'accord.
Mais sur la Formule 1.
Bah disons, hors dehors de victoire de machin,
victoire de Vettel, par exemple. Comme...
Voilà.
Bah victoire d'Alonso, ce serait bien, parce qu'Alonso, on n'a pas l'habitude de voir victoire d'Alonso en Espagne.
Hein. Oui, la dernière c'est 2006-2005.
2006.
2006.
Vous êtes sûr? J'aurais dit 2007, moi, mais enfin bon, je sais pas.
Ah, pas avec McLaren.
C'est Massa qui a gagné en 2007, je crois.
D'accord.
Il a gagné, il aurait gagné avec McLaren à Alonso.
Non, mais je vous crois, là. Je vous crois.
L'équipe est même pas classée au championnat. Il y a Gawar.
Avec Renault en 2006. bah, tu vois, ça date, hein, une seule fois en Espagne, donc j'aimerais bien lire ça après Barcelone. Tu vois, et c'est rare, hein, finalement, c'est pas quelque chose qu'on lit souvent, Alonso qui gagne en Espagne. Donc lui, ça relancerait un peu le championnat, parce que le pauvre, il a une super voiture, enfin, je pense qu'il a une super voiture, mais le problème, c'est qu'on le voit pas beaucoup en course. Il a pas de chance.
Oui, parfois, il y a un DRS qui cache, ou un aileron.
Ah ouais, et puis là, il y peut rien, non, c'est dommage, parce que, tu vois, chez Red Bull, je pense que de ces dernières années, peut-être l'un de leurs débuts de saison où ils ont le plus de craintes par rapport à Ferrari, à Lotus, à leurs adversaires. Et bah pourtant, bah Vettel a plus de points d'avance au même stade que l'année dernière, alors que Ferrari a une bonne voiture, donc c'est un peu dommage, mais le problème c'est qu'ils ont pas de chance. Il manque un peu de fiabilité, et puis ils ont pas de pot, et puis ils font des conneries aussi, faut quand même. Allez-y, moi j'ai toujours pas compris pourquoi ils laissent la voiture d'Alonso, qui a quand même l'aileron qui traîne par terre. Ah non, mais tu vas continuer, c'est vrai, il y avait pas de baisse de performance, enfin bon, quand même, quand on a un truc comme ça, on se dit bien qu'à un moment ça va. Pas un souci. Alors on sait toujours pas si c'est Alonso ou si c'est l'écurie, parce que chacun défend l'autre, qui a voulu rester, mais enfin là ils ont fait une belle boulette, à mon avis.
Une belle équipe, ça. Non, c'est pas lui, c'est nous, c'est notre faute et compagnie. Généralement c'est comme ça qu'on rompt. Mais pas chez Ferrari, eux non. C'est comme ça qu'ils se mettent ensemble.
Non, mais après ils étaient sûrement d'accord. C'est vrai que quand on regarde les performances, ça baissait pas. Donc ils ont pris le risque, mais le risque est quand même gros, quoi.
Mais donc au contraire, quelle actualité, toujours en dehors des Grands Prix, bon, même si ça l'a été un peu lié à un Grand Prix, n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
Un pneu en pleine fin. Dommage. Ça avait failli m'arriver une fois.
T'étais dans la Red Bull à Shanghai?
Non, mais parce qu'avant, la première année de la Formule 1, j'étais dans les stands, puisque c'était pas moi qui commandais, c'était Stéphane Sanson. Et j'étais dans les stands pendant la course, et sur un arrêt au stand, c'est un pneu de Rosberg qui était.
Ah, c'est en Hongrie.
Oui, exactement. Et qui m'est passé à 1 cm du visage, à peu près. Et, enfin, on n'a pas le droit d'être dans les stands, mais j'étais dans une ouverture juste à côté. Voilà. J'ai failli, bah, c'est dommage parce que j'aurais été célèbre. Non. Nico Rosberg. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que je voudrais pas lire? L'erreur, une faute au départ de Romain Grosjean. J'aimerais pas le lire.
Ouais.
Je suis sûr que cette saison, il peut faire quelque chose. Maintenant qu'ils ont trouvé ce qui n'allait pas et qu'il a fait son podium à Bahreïn, la Lotus, c'est un avion.
Mais justement, toi qui le côtoies, tu le, parce qu'on dit un peu tout sur Romain Grosjean, tu le sens comment, toi?
Ah, moi, je le sens bien.
En termes de mental, par exemple, parce que souvent, on dit que c'est son mental qui pêche.
Ouais, je sais pas pourquoi on dit ça, Là, je pense pas qu'il y ait un problème de mental, hein, Romain Grosjean, mais c'est vrai que tout le monde a commencé à dire ça parce que son coéquipier marchait bien et que lui, il avait plus de difficultés sur les trois premières courses, enfin sur les premières courses d'ailleurs, parce qu'en Malaisie, ça n'a pas été le cas, il a fait une super course, mais je pense pas que ce soit un problème de mental, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, il y aura peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, là, pour l'instant, il garde tout secret, mais il y a vraiment eu un déclic à Bahreïn entre la dernière séance d'essai libre, enfin, entre l'avant-dernière et la dernière, on va dire, et ils ont trouvé quelque chose. Parce que ça, tout le monde le dit. Il y avait dans ces trucs à trouver quelque chose qui touchait principalement Romain. Il n'y avait pas que des choses sur la voiture, ça c'est certain. Peut-être dans la façon de piloter, dans la façon de faire. Mais en tout cas, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et je pense que sa saison démarre vraiment. Alors on verra. Hein. On se rappellera dimanche soir pour voir si une grosse bêtise. Mais quand il a pas fait d'erreur, hein, depuis le début de la saison, Romain.
Non.
Pas fait de faute.
Non, hein. Et d'ailleurs, ça se voit, là c'était à Bahreïn, sa course finalement est très belle parce qu'on voit au départ, il est très prudent, il sait attendre et c'est vraiment en course où il fait à la fois, il est très, très autoritaire dans toutes ses manœuvres, il est en même temps très prudent, enfin, où il a avec Pérez, où il manque de se faire accrocher, il a le réflexe quand même d'éviter l'accrochage.
Pas facile d'éviter un accrochage de Pérez.
Non.
Non.
Il y en a certains qui s'y sont un petit peu mêlés les pinceaux.
Moi, je pense que c'est Formule 1, je reste derrière et j'attends qu'il sorte de lui-même. C'est un peu dangereux. C'est comme Maldonado. Vaut mieux pas chercher la merde avec lui. Mais non, mais Romain est pour moi un très très bon pilote, très rapide. Et en fait, les Français ont tous des grandes qualités. Pas ça pour être chauvin, mais...
Oui. Et ben voilà, c'est tout pour ton heure de gloire.
J'aimerais balancer sur eux, mais non.
Oh, même pas sur Vergne.
Ah bah non, Vergne, il est super bon, Vergne. Non, il a un... Alors lui, pour le coup, il a un mental d'acier. Hein. Je peux te dire que c'est pas le fait d'être en concurrence avec Ricardo qui va le faire stresser.
Oui, c'est vrai. En même temps, c'est
non,
Ricardo,
mais il est pas mauvais non plus, hein, Ricardo. Mais c'est une année charnière pour Vergne, c'est pas évident. Mais je peux te dire, lui, il a un mental d'acier. Vraiment.
C'est vrai que là, par exemple, sur le début de saison, il est au-dessus. Il concrétise pas malheureusement, mais sinon, en impression générale, il donne l'impression comme d'être au-dessus de Ricciardo.
C'est bien de l'avoir chez Red Bull l'année prochaine, mais enfin, on verra.
Helmut Marko n'est pas d'accord.
Ah, je sais pas s'il est pas d'accord. Parce que il y a un moment, ils disent qu'ils vont prendre Raikkonen, mais il y a un souci aussi, c'est que s'ils ont une filière de jeunes pilotes, faut bien les faire progresser, parce que si leur seul succès c'est Vettel, c'est un petit peu dommage de.
Mais on va vite se demander si c'est la filière qui marche ou si c'est simplement Vettel qui est arrivé au bon moment et...
Ouais, enfin après, il est chez Toro Rosso. Bon, après, c'est pareil, ça avait rien à voir à l'époque parce que c'est une Red Bull bis. Il avait fait des belles choses aussi, donc... Quand même un bon pilote, Vettel. On peut pas dire le contraire.
À l'époque, c'est même la Red Bull qui était une Toro Rosso bis. Ouais.
C'était pas la petite sœur, quoi. C'était la sœur tout court.
Donc voilà, merci pour t'être livré comme ça sur ces deux questionnaires. C'était des bonnes réponses, c'était intéressant. C'était pas chiant.
Ah bon? Bon bah bonne
soirée. Bon, il y a un moment où c'était un peu chiant, mais sinon c'était bien.
Très bien messieurs, on va passer au cœur de l'émission, on va passer au podium de l'actu, un podium à 5 places. Oui, parce
comme
que
d'hab.
Un podium à 3 places, c'est trop surfait.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et encore une fois dans les séries, parce que toutes les semaines dans le mag, on en parle, on va parler de pneus. Hein, et donc,
oh, j'en ai marre. J'en peux plus.
Oui.
J'aurais presque à dire à Pirelli, allez, renoncez, j'en ai marre. Filez la patate chaude à qui vous voulez, j'en ai ras le cul à chaque fois de parler de Pirelli.
Nouvel épisode dans l'histoire des pneus. Cette fois-ci, il y aura des pneus en rab, enfin un jeu de pneus, un pneu qui sera un pneu dur, mais prototype, donc ça sera autre chose encore que le nouveau pneu dur hein, qui a été annoncé par Pirelli, sauf que petite différence, alors qu'on avait parlé d'un train de pneus pour les rookies, visiblement les équipes n'ont pas été capables de se décider sur qu'est-ce qu'un rookie, donc finalement c'est tout le monde qui aura un train de pneus en plus.
C'était une idée complètement con hein, pour les rookies. Enfin, je trouve.
Oui.
Hein. Parce que le but c'était que les pilotes roulent plus en essai libre. Excusez-moi, je débute et je démarre. Hein.
Ah non mais
non, vas-y.
Non, parce que comme ça, si quelqu'un dit la même chose que moi, ça me permet de plus parler. C'est important. Donc non mais. Parce
putain,
que
on peut pas lui dire ta gueule, merde.
c'est lui qui a ça.
J'avais oublié. J'allais le dire, mais non, je vais dire. Non, mais c'est vrai que c'est une idée complètement ridicule, faire rouler les rookies. Enfin, le but, c'était de faire plus rouler les... Déjà, faut quand même que les pilotes aient plus d'informations, c'est quand même le principe. Et en plus, le but, c'était de faire pour le public aussi, parce qu'on avait des séances où ils roulaient pas. Et bon, si c'est pour voir un mec que personne ne connaît, enfin, il y a les troisièmes pilotes qu'on connaît, mais enfin bon, c'est quand même mieux de voir les vrais pilotes. Même oui. Si c'est vrai que les rookies, ils ont aussi besoin de rouler s'ils veulent un jour accéder à la Formule 1. Mais je pense qu'il vaut mieux faire des sessions d'essai de 3-4 jours qui leur sont dédiées plutôt que de les faire rouler, les obliger les écuries à les faire rouler sur une... Voilà, c'est tout. Mm. Pour moi, mais enfin bon, c'est une bonne idée d'avoir ajouté des pneus parce que là, par contre, ça va leur permettre de rouler un petit peu plus et puis ça permettra à Pirelli de faire des expérimentations.
Mais en plus, on sait pas vraiment si c'est des pneus expérimentaux avec pour objectif derrière les introduire,
c'est
juste des pneus expérimentaux qui sont introduits juste pour dire voilà comme ça ils auront plus de pneus. C'est-à-dire que je trouve dans le communiqué ils sont pas très clairs sur leur intention derrière. Est-ce que c'est vraiment pour développer quelque chose ou est-ce que c'est juste ils profitent de ce que leur autorise le règlement pour trouver un moyen de donner un train de pneus supplémentaires aux équipes le vendredi matin, les faire rouler.
C'est pas impossible.
Et c'est un train de pneus apparemment longue durée qui dure encore plus longtemps que les durs actuels pour autoriser le roulage. Si on en croit ce qu'ils disent après.
Ce qui est un petit peu bête, c'est que l'équipe, pour régler les monoplaces et faire leur préparation de Grand Prix, ils ont quand même besoin aussi d'avoir les pneus qu'ils vont utiliser pendant la course.
Oui.
Les pneus qui servent à rien et qui ont des données qui sont totalement différentes des autres, c'est ridicule parce que ça n'a aucun intérêt. Donc il faudra voir s'ils se rapprochent quand même au moins des pneus durs, quoi.
Et en attendant, c'est un pneu qu'ils vont devoir découvrir, qu'ils vont devoir apprivoiser, auquel ils vont devoir s'adapter. Donc, moi, c'est pas une solution que je trouve la bonne solution. Le problème, c'est que Pirelli, y a que Pirelli, en fait, dans l'histoire qui propose des solutions. Les écuries et la FIA restent un peu là à regarder ce qui se passe, mais à rien faire pour corriger le problème, parce qu'il y a un problème avec les essais et que personne roule. Mais il y a que Pirelli qui peut prendre l'initiative pour l'instant parce que les écuries et la FIA peuvent pas se mettre d'accord.
Et au final, on touche pas aux tendres qui semblent être quand même ceux qui ont le plus posé de problèmes quand même depuis ce début de saison.
Après ça, si la location est moins agressive que lors des quatre premières courses, ce sera pas trop un problème. On sortira les tentes que quand vraiment on sera sûr qu'ils pourront tenir 10-15 tours.
Ouais, et puis on peut pas trop changer non plus les règles en cours de saison, donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a des écuries qui s'y font très bien, ces pneus. Par exemple Lotus, un boulier, le patron de Lotus était complètement contre, donc il était quand même assez contre le fait de changer les règles, de changer les pneus en cours de saison. Donc c'est compliqué, donc ils ont vraiment fait des changements qui sont pas énormes, et le pneu tendre étant celui qui change certainement le plus par rapport à l'année dernière, plus de trop le modifier, donc ils ont modifié le dur, et puis certainement que dans les choix de pneus qu'ils vont faire pour les circuits, ils en tiendront compte aussi, peut-être en apportant des pneus un petit peu plus durs, le composé plus dur que l'année dernière, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à Bahreïn.
Mais surtout en plus en choisissant un nouveau pneu dur, c'est pas une réponse à la question des pneus, c'est-à-dire qu'on se dit oui c'est pas les pneus durs, fallait changer, c'est les tendres. Mais déjà rien qu'en changeant le pneu dur, ils répondent pas à la question de la construction des pneus. Ils répondent tout simplement au fait c'est qu'il y avait un écart entre les médiums et les durs qui était quasiment non significatif et qui faisait qu'il y avait plus de stratégie. Donc eux leur problème quand ils mettent ce nouveau pneu dur, c'est pas, ils disent pas, on apporte une solution aux critiques qu'on nous fait depuis le début de saison sur la structure des pneus ou sur le comportement des pneus. Ils font une modification sur un point que eux ils ont détecté en disant finalement nos deux mélangés plus durs sont trop proches. Il faut qu'on recrée de l'écart pour que quand on les associe, il y ait vraiment un enjeu derrière à la différence des deux gommes. Donc c'est-à-dire que je trouve toujours un peu rigolo qu'on reproche à Pirelli de rien faire sur les pneus tendres. Oui, mais déjà sur les pneus durs, ils ne répondent pas aux critiques qu'ils font et ouvertement ils disent mais nous on n'est pas sur la structure, nous on est sur le défi qu'on propose aux équipes. Donc rien que ça, déjà de toute façon on est plus dans le même sujet, quoi.
Il y a un problème de communication de la part de Pirelli parce qu'on sait pas, justement voilà, c'est ça le truc, on sait pas de à quoi ils réagissent et quelle est leur solution. Si pour eux il n'y a pas de problème avec les pneus tendres, qui disent en fait ce qu'ils font et pourquoi, quoi, parce que là ils nous disent juste bon bah on change le pneu dur, on amène un nouveau train de pneus pour plus rouler, mais sur le train de pneus dur ils nous disent pas voilà on a de problème d'écart. Enfin moi je la prends par toi Dino, mais sinon j'avais jamais, enfin, j'avais pas vu moi personnellement qu'il y avait un problème d'écart entre les durs et les médiums.
Un problème de timing surtout, je pense que c'est vrai que c'est un peu le défaut. C'est il propose une solution qui pour moi clairement est pas une solution qui vise à répondre aux critiques, mais le fait qu'elle arrive à ce moment-là donne l'impression aux fans de se dire ah bah voilà, ça c'est ça leur réponse aux critiques qu'on fait. Donc il y a un décalage entre ce que eux font et les critiques, et voilà, ils sont quitte à pas les écouter, en fait, faudrait peut-être quasiment qu'ils changent vraiment rien du tout.
Du coup, oui, en fait, il n'y a pas de réponse aux critiques, et c'est ce qui laisse croire au fait que ce soit leur réponse, alors que c'est pas le cas.
Le problème, c'est que les critiques, elles viennent de certaines équipes. Donc, si tu réponds aux critiques, bah, tu vas avantager ceux qui critiquent, c'est-à-dire Red Bull, Red Bull, Mercedes, je sais plus qui y avait exactement dans ceux qui. Et ça, et tu vas désavantager les autres. Donc, c'est le problème, c'est que si tu changes les règles au milieu de la saison, là, ça devient presque scandaleux, quoi. On peut pas faire ça.
Je pense que tu peux dire aux équipes, on entend vos critiques, mais on les trouve infondées. Il y a 10 équipes, 9 équipes qui trouvent nos pneus corrects, donc on va pas changer pour deux équipes.
Mais c'est ce que dit Pirelli. Je pense que surtout, le problème, c'est pas tant un problème de communication de Pirelli. Je pense que surtout, c'est le problème, c'est que c'est les fans. C'est que c'est les fans qui attendent des changements de la part de Pirelli, et que Pirelli, bah, eux, ils disent, mais nous, on va pas raison de changer, les gens veulent pas qu'on change. Je trouve que d'ailleurs Paul Embury a été très clair récemment en disant, il a même dit ils ne veulent pas changer les pneus, ils nous disent surtout ne changez rien, même si ça vous coûte en termes de pub et compagnie, ne changez rien, parce que pour certaines équipes, même si les pneus sont mauvais pour eux, ils savent qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus forts qu'eux, Red Bull par exemple, pour qui les pneus sont encore pires. Donc à la limite ils disent on préfère finalement finalement on est peut-être pas trop à plaindre avec nos pneus, pour Red Bull c'est beaucoup plus pénalisant. Donc c'est un peu le problème de je pense, c'est pas un problème de véritablement de Pirelli ou d'un manque de communication. Communiquer ils le font, mais c'est vrai, c'est que les fans ou certains observateurs n'écoutent pas du tout ce que disent Pirelli et veulent que Pirelli change. Mais c'est pas parce que les gens veulent que Pirelli change que derrière Pirelli va changer. Pirelli ne peut pas changer, c'est pas possible.
C'est peut-être pas juste pas assez relayé en fait par les médias ou pas assez fort par Pirelli, quoi, pas assez annoncé fort.
Qu'est-ce qu'ils ont les médias?
C'est vrai, qu'est-ce que tu glandes, hein, Antoine, sérieux.
Il y a deux problèmes objectifs finalement avec ces pneus, mais qui sont pas liés aux différentes équipes. C'est déjà les performances, enfin voir des pilotes qui pilotent, et franchement ils le disent, hein, pilotent à 60-70% des capacités de la voiture, déjà c'est énervant. Parce que ça veut dire que les pilotes, ils sont jamais à fond, parce qu'il faut qu'ils gèrent les pneumatiques, etc. Puis 3-4 arrêts par course, c'est quand même beaucoup. Et je suis d'accord, il faut de la stratégie, et c'est important qu'il y ait du spectacle, etc. Simplement en Chine, je reviens sur ce Grand Prix, parce que c'était quand même n'importe quoi, il n'y a pas eu de dépassement. Tous les dépassements qu'il y a eu, c'était dans les stands par rapport aux stratégies, etc. Il y a eu des dépassements à des moments où les pilotes se laissaient doubler parce que voilà, dans leur stratégie, c'était pas grave, machin et tout. Donc ils demandaient par radio, est-ce que je me barre? On leur répondait non. Ok, on se range, tac. Y a pas de souci. Donc ça c'est pas beau à voir parce que c'est quand même un spectacle. Et puis le fait qu'ils soient pas au maximum, c'est quand même frustrant parce que quand vous avez des pilotes. Métier, c'est quand même d'être rapide. Là, ça devient des stratèges, donc c'est.
En fait, moi, c'est ce qui m'embête le plus, c'est surtout dans les qualifs. À la limite, la course, que les pilotes soient pas à 100%, ça me dérange pas trop. Mais dans l'exercice des qualifs, qui est quand même par définition un exercice où il faut être rapide, voilà, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui qu'on réagisse pas sur ce point-là, et que même les équipes Pirelli étaient prêts à fournir des pneus qualifs à une époque, et personne les a jamais entendus, quoi. Personne n'a même voulu réfléchir à ces questions-là avec Pirelli, quoi. C'est alors que les qualifs, ça doit être l'expression de la rapidité du pilote, de sa voiture.
Tu te rends compte qu'il y a quand même des gens, un billet pour assister à la Formule 1, ça coûte quand même très cher, il y a des gens qui payent leur abonnement à la télé, etc. Et tu regardes les qualifs, et bah ouais, mais t'as, en Q3, t'as des gens qui y roulent pas, quoi. Vettel, champion du monde en titre, c'était en Chine encore, décidément, se qualifie pas, moi je trouve ça lamentable, quoi, c'est pas normal. Donc après, tu peux aussi faire sans modifier les questions de pneus, tu peux aussi les obliger à sortir. C'est Patrick Tambay qui disait ça, et moi je trouve que c'est une très bonne idée. Tu mets un point au poleman. Le mec qui fait la pole, il a un point. Bah là, je peux te dire qu'ils vont se battre, hein, les mecs. Hein.
Ou même, tu étends la règle des 107%. Tu l'appliques, les 107%, à chaque phase de qualification. Les mecs, pour être qualifiés, ils sont obligés d'être dans les 107%, sinon ils partent du fond de la grille.
Ils sont obligés de faire à temps,
au moins. Au moins, là, ils sont obligés de sortir, parce que sinon, ils seront en fond de grille, donc,
S'ils sont obligés de sortir, ils sont obligés de faire à temps, ils iront forcément chercher le maximum, parce que quitte à niquer, entre parenthèses, à utiliser des pneus, autant que ça serve à quelque chose.
Mais surtout que maintenant, comme les pneus ne tiennent même pas le tour de chauffe, même ouais. si tu roules au ralenti,
Oui.
T'as déjà bien niqué le pneu.
Allez, on va passer à la deuxième actu. On va passer à Red Bull. Alors, on se souvient tous des problèmes d'alternateurs de Red Bull. Et à l'époque, ils avaient dit à Renault, dégagez Magneti Marelli. Renault ne l'a pas fait. Eh bien, ils ont pris les devants, puisque ils ont confirmé que, en fait, ils avaient remplacé Magneti Marelli par des alternateurs de McLaren Electronics.
Mais ce qui est étonnant, c'est je crois que c'est Renault qui confirme ça.
Oui.
C'est donc c'est Renault qui confirme que une de leurs écuries partenaires, pas n'importe laquelle, hein, quand même celle avec laquelle ils sont trois fois champions du monde ces trois dernières années, préfère utiliser les alternateurs d'une autre d'un service extérieur quoi.
Ouais, mais tu sais, dans un il y a des éléments comme ça qui viennent d'autres sociétés. Enfin, tout n'est pas construit forcément par la même entreprise, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que ça vient de
McLaren.
C'est McLaren, mais c'est d'autres branches de McLaren, quoi. C'est pas l'équipe.
Ouais, c'est pas différent d'avant parce qu'après tout, Magneti Marelli, c'est une filiale de Fiat. Donc, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Ce qui tend le coup d'ailleurs à tous ceux qui tous les conspirationnistes qui insinuaient que justement ils voulaient changer de fournisseur parce qu'ils avaient peur que leurs alternateurs étaient sabotés par Magneti Marelli. Là, si on change pour mettre chez McLaren, on pourrait avoir les mêmes craintes que McLaren trafique aussi ses alternateurs. Quoi.
C'est dommage, en tout cas, c'est une triste nouvelle.
Ah bon?
Bah oui, ça veut dire que Vettel va avoir des bons alternateurs.
Oui, c'est vrai. En même temps, les autres moteurs Renault n'ont pas eu de soucis d'alternateurs depuis.
Oui, c'est vrai.
Oui, et puis ils ont travaillé sur l'alternateur de Magneti Marelli pour que le problème n'arrive pas. C'est plus de ce côté-là qu'on comprend pas pourquoi il y a enfin, Renault dit que c'est un changement qui a été fait parce que différentes monoplaces ont différents besoins en électricité.
Ouais.
Après, d'où sort le besoin de Red Bull de plus d'électricité? Est-ce qu'ils auraient pas un système caché qui demande de la puissance?
C'est pour être sûr que la radio fonctionne bien.
Ouais.
C'est pour électrocuter les pilotes. Attention, Sébastien, t'es en train de trop dépasser Marc Weber. On va te donner un coup de courant. C'est d'ailleurs Antoine Arlot qui a le bouton de l'appui si on l'active en même temps. Mais vite, ouais.
Bah, dans ce cas-là, passons tout de suite à la troisième actu de la semaine. Et c'est une actu à tiroir un peu, puisque c'était un peu la semaine des petites phrases entre Mercedes et Red Bull, ou plutôt entre Marco et Loda, mais aussi entre Hamilton et Vettel. Alors dans l'ordre, hein, il y a eu d'abord Marco qui a dit qu'en gros c'était la faute à Loda s'il y avait eu une rumeur que Red Bull abandonnerait la F1 suite à ce qui s'est passé en Malaisie, parce qu'apparemment il aurait un peu déformé des propos.
Alors ça déjà, oui, c'est un bel exemple d'effet Streisand, ça. Mais la rumeur dont personne n'avait entendu parler au final, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai jamais entendu ça.
Non.
Oui, il y avait eu quelques papiers dans les médias britanniques. Il y en avait eu un ou deux quoi, mais.
Ça n'avait pas fait plus de bruit que le fait que Marco démente cette rumeur en fait. Donc à ce moment-là, enfin la rumeur elle est plus connue du fait de la réaction de Marco que du fait de la rumeur au départ quoi.
Mais ça c'est le principe de toute rumeur, c'est que une rumeur sur laquelle t'es obligé de réagir, ça donne de la consistance indirectement à cette rumeur. C'est pour ça que généralement on conseille aux gens de ne rien dire face aux rumeurs, de laisser courir la rumeur, elle va mourir d'elle-même. Mais dès que tu commences à réagir, tu remets du gaz dans la machine et
Mais en même temps, on remarquera que Marco n'en a pas tenu trop rigueur, puisque quelques jours après, il a donné raison à Niki Lauda. Oui, vous avez raison d'essayer de nous piquer notre triple champion du monde. Mais en même temps, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Je crois me rappeler qu'au début des années 2000, c'était McLaren ou Williams qui disaient, oui, tous les ans, on envoie une proposition à Michael Schumacher. Parce que c'est le meilleur pilote. Non, mais c'est parce que c'est le meilleur pilote. Et que, voilà, on sait bien qu'il dira non. Mais qui sait?
Ce serait pas professionnel de pas essayer.
Ça ne serait pas professionnel de ne pas essayer.
Alors, ils virent qui pour prendre Vettel, Mercedes?
Oh.
Ah bah, Hamilton. On remarquera que Hamilton, il a dit, non, Vettel, Alonso, non, ça risque d'être pas bien. Par contre, moi et Vettel, y a pas de souci.
T'as pas pour Rosberg.
C'est Alonso et Vettel qui veulent pas courir avec Hamilton. Surtout Alonso.
Bah d'ailleurs, apparemment, Alonso ne veut même plus courir avec Vettel. À une époque, il était chaud, puis visiblement, Bon, après, c'est pareil, hein, c'est les déclarations d'un tel qui a entendu dire que, ouais, Alonso, il veut plus courir avec Vettel.
Il veut peut-être plus courir.
En même temps, a-t-il voulu courir un jour? Ça se trouve, ouais. Il a évoqué il y a pas longtemps ce qu'il ferait après la F1 en disant je sais pas.
Ça nous avance bien, ça, je sais pas.
C'est bien de l'info, ça. Breaking news.
Il courra pour s'amuser. Tu sais, c'est des interviews qui sont en un bloc sur un site et en 15 versions différentes sur 15 articles différents sur d'autres sites. On ne cite pas ce genre de site, hein. Voilà.
On n'a jamais cité, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont une nouvelle génération d'avance, quoi. C'est la prochaine génération, quoi.
Moi, j'aimerais bien savoir qui vous parlez, mais enfin bon.
Allez, actualité principale suivante, on va partir en Thaïlande. Oui.
Rangez les gosses.
Avec déjà un premier projet de dessin, hein, qui a l'air magnifique.
Moi, je l'ai pas vu.
C'est un circuit très à l'américaine, hein. Beaucoup d'angles droits, de lignes droites, peut-être à l'horizon 2015, un Grand Prix de Thaïlande.
J'ai l'impression que ça fait un tabac, cette actu.
Alors, je dois dire que j'ai essayé de faire une vidéo en stop motion. sauf que en faisant cette vidéo grâce à Google Street View et la vidéo, sincèrement, celle qui est sur mon PC est franchement très très bien pour voir un peu à quoi ressemblerait le circuit.
Ce serait magnifique, hein, Bangkok, hein, c'est une belle ville. Hein.
Sauf que le problème, c'est que c'est une vidéo en 4 ou 5 images secondes. Là où sur YouTube et Dailymotion, alors je crois que c'est déjà YouTube, Dailymotion, vous pouvez pas mettre de vidéo dans ce format-là. Et sur YouTube, quand vous mettez une vidéo, ça vous convertit automatiquement en 20 images par seconde.
Il faut coller plusieurs fois les images, en fait.
Voilà, donc ce qui fait que la vidéo, elle fait 26 secondes, donc vous faites un tour du circuit en 26 secondes. Effectivement, on a moins le temps de voir le charme de ce circuit. Ce qui vaut surtout pour le décor, parce que c'est vrai que c'est il y a des beaux coins où passer, c'est prévu pour être une course de nuit, donc c'est un coin, il y a certaines photos de nuit du palais notamment, ça fait le tour d'un palais et de nuit, c'est franchement un super décor, c'est même plus joli que Singapour, je trouve. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus un circuit formidable, même si
juste pas qu'ils nous fassent plus que des circuits en ville, c'est moi j'adore ça, mais je crois qu'il y a que ça non plus.
Ouais, voilà. Puis il faut leur donner une vraie identité. Et à la limite, ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant notamment par rapport au circuit de New York, c'est que par exemple New York, il a une identité parce que ça va être un circuit en ville très rapide.
Peut-être.
Là où, pour le moment, Bangkok, c'est vrai que c'est des grandes portions de pleine charge avec des virages très serrés. Bon, ça fait un peu penser à Singapour, quoi. Donc même si ça risque d'être plus rapide.
Singapour, c'est pas non plus un modèle de...
Non.
C'est magnifique, c'est super, moi j'adore aller à Singapour. Et niveau sportivement, le circuit n'a rien de formidable.
Oh, il y a le virage, il y a le virage Kimi Räikkönen.
Oui.
Ah, le virage. Ouais, le virage.
Il va falloir revoir la définition du mot virage pour enlever ce truc de... Faut plus appeler ça un virage.
Mais donc c'est la zone de stockage des vibreurs non utilisés en Formule 1. C'est les mecs qui se sont dit, les gars, attention, là j'ai un stock de vibreurs, il m'en reste 6 ou 7, où est-ce qu'on les met? Bah écoute, là il y a un petit virage, on sait pas trop quoi en faire, t'as qu'à les mettre là. Tu t'arranges pour qu'ils soient bien proches, collés les uns par rapport aux autres, et ni vu ni connu.
Allez, la dernière actu de ce podium, c'est des nouvelles de Robert Kubica. Donc, on avait eu des rumeurs qui ont été confirmées. Il a fait des heures en simulateur chez Mercedes. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien, mais il en a fait. Ça a été confirmé. Et même Toto Wolff a dit que s'il y avait la possibilité, pourquoi pas lui proposer au moins un essai sur la McLaren. Lui a apparemment déclaré...
Mercedes. Tout le monde confond McLaren
Mercedes.
Et Mercedes.
Chez Mercedes.
Même Lewis Hamilton.
Peut-être que s'il lui confie la Mercedes, elle va se retrouver sur la McLaren.
Lui apparemment déclare aller mieux. Il dit que pour certains circuits, il évoquait justement notamment Barcelone, qui pourrait tenir un Grand Prix à Barcelone, mais que sur des circuits comme Monaco, par exemple, ça n'était pas encore possible.
Même Barcelone
C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands virages rapides.
Je vais faire un jeu de mots, mais c'est pas un circuit de manchots, Barcelone. Je veux pas être méchant, mais bon, si vraiment il a pas encore toute la pleine force de ses capacités de mouvement notamment, Barcelone c'est pas non plus.
Il y a de l'épingle, quoi.
Il y a l'épingle, il y a des grandes courbes où il faut tenir.
Bah, c'est encore ce que je reproche à chaque fois à la communication de Kubica ou des gens qui l'entourent, c'est que il nous dit ça va bien, mais on sait pas exactement où il en est. À chaque fois, il nous dit oui, j'ai envie de revenir, je vais de mieux en mieux.
Bah, mais en même temps, il fait de la compète. Bon, c'est du rallye, bon, donc.
Non, mais c'est pas ça que je remets en question, c'est son état de santé médicale, même si ça ne regarde que lui, qui nous dise, voilà, pour l'instant, j'ai un problème de mobilité de tel du coude, je peux pas faire tel mouvement, tel machin, parce que nous, on est toujours dans le brouillard par rapport à comment il va, quoi. Il a beau nous dire, je vais bien, en fait, il va peut-être sûrement très bien, mais nous, on ne sait toujours pas.
Non, mais je suis pas sûr que... Alors moi, ça m'étonne beaucoup parce que tous les gens... Moi, je l'ai pas rencontré, hein, Kubica, mais tous les gens qui en parlent disent que c'est impossible qu'il revienne en Formule 1 aujourd'hui. Après, ça peut-être trouver la solution miracle, mais il faut quand même être sacré au point physiquement, quoi, pour la Formule 1. C'est pas du simulateur, hein. Là, t'as les G à prendre, t'as l'importance du circuit quand même malmène pas mal. Et aujourd'hui, Robert Kubica, il en est incapable. Hein, sa main, elle est pas belle à voir. Hein. Ça reste compliqué pour lui. Donc moi, j'y crois pas du tout. Mais après, peut-être qu'il est encore jeune. Hein, il doit avoir quoi, 27, 28 ans. Moyen. Hein.
C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on sent, notamment dans ses dernières déclarations, que c'est ce qu'il dit. Il dit oui, moi j'aime bien le DTM, mais il a refusé de faire du DTM parce que il a quand même envie, ne serait-ce que d'essayer de revenir en Formule 1. Et je pense qu'aujourd'hui c'est tout ce qu'il veut, Robert. Je pense que je suis pas sûr qu'il soit convaincu de pouvoir revenir, mais il a juste envie d'essayer. Et c'est un peu son point de vue aujourd'hui, c'est de dire je fais du rallye parce que ça lui permet de rentrer dans la compétition, de s'améliorer physiquement, mais c'est aussi ménager un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire que ça me permet quand même d'avancer un peu vers la Formule 1, tout en même temps me permettant quand même d'acquérir de l'expérience pour le rallye au cas où j'arriverais pas à revenir en Formule 1. Donc il a quand même un peu cette ambition, je pense, d'essayer de revenir en Formule 1, et malgré tout, s'il n'y arrive pas, de rester compétitif, suffisamment compétitif pour pouvoir briller peut-être en rallye dans des championnats comme le RC ou d'autres championnats, pourquoi pas le WRC, un de ces quatre. Donc on le sent un peu comme ça en train de... Pour lui, aujourd'hui, c'est soit la F1, soit le rallye, c'est deux passions.
Ok, donc ça, c'était les 5 actus principales. Juste avant de passer aux actus dont on se fout, en tout cas de la sélection, on va revenir sur le sondage de la semaine dernière.
Oh la vache, oh non, j'ai oublié ce sondage.
Nous étions très inspirés.
Je n'étais pas là, Antoine, je te rassure.
D'accord. Nous avons évoqué cette magnifique publicité Red Bull, hein, où, rappelle-nous, Gus, hein, c'est les managements qui avaient gagné
6-4.
6-4 au Baby Foot. Hein. Parce que, bien évidemment,
ah oui,
c'est rien qu'avec cette pub, hein, on s'est dit, ah, mais en fait, tout va bien chez
Red
Bull.
Ils sont super potes.
Ils sont super potes. Et donc, on s'est dit, puisqu'ils sont super potes, ils peuvent s'affronter à plein d'autres disciplines. Et donc, on avait proposé à nos votants, à quelle discipline voulez-vous voir s'affronter les pilotes contre le management Red Bull? Avec des magnifiques propositions. En fin de peloton, on trouve avec chacun un petit pourcent le jokari et le billard à trois bandes. Devancé seulement d'1%, puisque avec 2%, on trouve le Jenga. Ça serait un truc qui serait compliqué, tu vois, pour Robert Kubica, le Jenga.
Oh.
Ah, il joue que d'une seule main.
Il peut nous surprendre.
Ensuite, on avait un beau peloton, hein, avec le curling à 8%, le fantasy F1 à 8% aussi.
Mais à la fin, c'est toujours Bilo qui gagne.
Oui.
Oui.
Le docteur Maboul, qui était un de mes favoris, se retrouve à 9%. Derrière, les fléchettes et le Uno à ex aequo, 10% chacun.
J'ai voté le Uno. Moi. L'expérience, c'est un jeu qui te détruit une famille.
Oui.
Moi, ma grand-mère ne me parle plus parce que depuis qu'on joue au Uno.
Non, non, ma famille, c'est le Monopoly.
Ah ouais.
Eh bien, ça tombe bien parce que les deux propositions qui vous ont le plus charmé, c'est avec 20% le Monopoly. Sans doute, vous avez été rassuré par le fait qu'on a bien précisé que Bernie ne ferait pas la banque. Et peut-être pensiez-vous à tous ces problèmes de budget des équipes de Formule 1. Vous vous êtes dit, on va prendre le truc qui coûte le moins cher, mais qui sera le plus fun, surtout avec le menton de Mark Webber. Vous avez choisi à 30% le jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Vous remarquerez que je n'interviens pas. Hein.
Oui.
Vaut mieux. Dans le...
Tu y parlerais tout crédit, Antoine.
Oui.
On comprend que c'est encore... voilà. T'as...
Non, non, mais je peux pas critiquer le menton de Marc Audet. Il fait 2 mètres de plus que moi. Il est costaud. Je sais pas.
Donc reprenons pour les actus dont on se fout, celles qui n'ont pas reçu beaucoup de votes cette semaine, avec, après le Venezuela, c'est le Kazakhstan qui fait sa pub chez Williams. Oui, il va y avoir le beau logo Astana sur la voiture.
Je voudrais surtout qu'ils aient les couleurs.
Ah non.
Ah non, ça pèterait une Williams turquoise et jaune à eux.
Ils sont très bien comme ça. Bon, ils se font sponsoriser par plein de pays différents, c'est très fun. C'est un concept.
Oui. Le tour du monde.
C'est, voilà, Venezuela, Kazakhstan.
Le melting pot.
Bon, il fut une époque, c'était Ben Laden. Hein.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, faut le rappeler. Ça, c'est pas une blague. Sinon, rapidement, une autre actu citée, c'est les problèmes de télémétrie. Oui, ça y est, ils ont mis 2 mois. Mais c'est bon. Les deux marcheront sur les voitures.
Ça devrait marcher, mais attention, hein, on est à l'abri de rien.
Pourquoi j'ai une chanson qui me vient en tête. Parole, parole, parole.
On va vite être fixé, a priori. Hein.
Oui.
Ah bah oui, bah oui.
Alors, c'est en Espagne, mais c'est vrai que ça a causé des soucis, parce que c'est pour ça que à Bahreïn, oui, qu'il y a eu énormément de...
Ouais,
Bahreïn,
je crois que c'est Bahreïn.
Énormément de pilotes qui avaient dépassé sous drapeau jaune. Il y avait une liste, il y avait, je sais pas, 7 pilotes. Bon, parce que voilà, ils le voient pas sur leur écran, donc c'était un peu compliqué. Certainement que le système avait planté, comme d'habitude, quoi. Depuis le début de la saison, ça marchait pas, donc... Ça devait être un peu compliqué en plus pour les commissaires de course qui devaient regarder tout ça à la fin, parce que de sanctionner un pilote quand on sait que le système ne fonctionne pas.
Mais même, je pense même après coup, ils ont décidé de renoncer complètement à sanctionner les mecs parce que c'est de garlas, quoi, parce qu'on se rappelle à Bahreïn le duel avec Perez et Button, juste dans la ligne droite GP2, Button dépasse Perez, il continue derrière, il a le DRS grand ouvert alors qu'il y avait strictement aucune raison qu'il ait le DRS à ce moment-là, quoi. Puis les pilotes en jouent, enfin en même temps, voilà, pas vu, pas pris, quoi, si on leur laisse, sur les laisse faire. D'ailleurs, à Barcelone, il y aura deux zones DRS.
Il met tout, la deuxième, dans la après le...
Dans la ligne droite antagoniste, ou...
Je pense.
Avant l'épingle,
oui,
avant
le... j'ai pas vu encore le...
Allez. Avant l'espèce de stadium, là?
Oui, avant là où t'as la piste moto et la piste F1 qui se séparent.
D'accord.
Mais depuis le début de la saison, de toute façon, il y a deux zones maintenant sur... Dans tous les circuits, on va avoir deux... Mmh. Enfin, beaucoup de circuits, on va avoir deux zones.
Et toi, tu es favorable ou pas au DRS?
Bah, pourquoi on serait pas... Oui. Après, c'est sûr que ça devient une chose d'indispensable, quoi. On voit bien que quand ça marche pas, un pilote peut pas espérer faire quelque chose. Hein. Alonso, le sien marchait pas. Même s'il a fait une remontée intéressante, il aurait été incapable d'aller jusqu'au podium. Ou...
Ouais.
Voilà, c'est impossible, quoi. L'avantage est tel que... pas te défendre avec ça ou attaquer.
Sinon, vous le savez, les zombies, c'est à la mode, et on va parler un peu de voitures zombies, avec le retour des HRT, mais pas en F1. Dans cette magnifique série que personne ne connaissait, hein, qui est le Boss Grand Prix. Oh non, il y a pas vraiment qui connaissait ça.
Mais le pire, c'est que c'est vieux.
C'est pas la série historique la plus connue du monde.
Il faut quand même rappeler que c'est un concept, c'est s'opposent des voitures jusqu'aux années 2000, je crois.
C'est,
enfin là, il y aura les
HRT. Globalement, c'est des monoplaces sur les 25 dernières années.
Il y a de tout.
Voilà, il y a plusieurs catégories. Là, dans leur catégorie, ils affronteront alors des Arrows de 2000, une Benetton de 97 et une Jaguar de 2004.
Mais c'est un championnat très intéressant parce qu'en fait, le règlement aérodynamique est libre, c'est-à-dire que les gens, selon leurs moyens, peuvent venir. Je crois que les vainqueurs, en fait, c'est un châssis Benetton de 97 avec des ailerons de 94, un fond plat complètement nouveau. Il y a une liberté, en fait, réglementaire qui est totale, peut-être jusqu'à la limite de pas couvrir les roues parce que sinon c'est plus dans l'esprit monoplace, mais en tout cas, c'est ça qui est très intéressant sur ce championnat.
Et puis même sans ça, c'est aussi un moyen de aussi comparer les époques. C'est vrai que confronter une HRT, confronter une Benetton d'il y a 15 ans et une Arose,
et
ça peut paraître...
Et il n'y a pas que des F1. Là, j'ai cité les fins de sa catégorie, parce qu'il y a vraiment une catégorie spécifique. Il y a aussi des anciennes IndyCar, de la GP2, de la F3000. C'est assez varié quand même comme plateau.
Oui. Alors là, ils seront au Hungaroring.
Ils seront au Red Bull Ring, mais c'est trop tôt pour les HRT, parce que déjà, il faut qu'ils trouvent des pilotes. Donc ça sera a priori plutôt pour fin mai.
Excepte de monter dans la voiture.
Oui.
Ah, on en connaît un qui est indien.
Oui, c'est vrai.
Il peut arrêter de faire la météo pour redevenir pilote, hein, s'il veut.
Donc a priori, ça serait plutôt pour fin mai, début juin. Je crois que le meeting d'après, c'est à Monza. Donc ce sera plutôt début juin qu'elle réapparaîtra.
Mais ils ont un moteur pour ça? Parce qu'il me semble que les deux monoplaces 2011 étaient vendues sans moteur et sans boîte de vitesse parce que leurs propriétaires respectifs les avaient récupérées.
Alors est-ce que c'est pas les monoplaces de l'année dernière, ça?
Non, dans le communiqué du Boss GP, je suis allé voir quand même,
c'est les 2011.
C'est écrit 2011.
Non mais les voitures qui ont été vendues et c'est les voitures de l'an dernier.
Non, ils ont vendu toutes les voitures. Il y a Pirelli qui en avait récupéré une et
qui vont peut-être revendre.
Oui.
Sur eBay d'ailleurs.
Et le reste avait été acheté par.
Soyez vigilants.
Et le reste a été racheté par cet homme d'affaires là, Théo Martin, qui du coup va les réengager. Alors après, cette actu a donné lieu à un concours du titre le plus racoleur sur Internet. Je cite HRT René de ses cendres, deux HRT ressuscités, les HRT reviennent en piste, les HRT de 2011 de retour sur les grilles de départ, l'écurie HRT de Formule 1 passe à la série Boss GP. Enfin, c'était juste incroyable que sur une actu un peu assez anodine, intéressante parce que bon, ça fait un peu 5 minutes qu'on en parle, mais anodine.
Il y a peut-être des gens qui regrettent HRT.
Oui, ça
peut-être
plus d'écurie et qu'elle plus de clics, hein, c'est la formule. Hein.
L'espagnol peut-être.
Antoine. Tu regrettes, toi, HRT?
Pas tellement, non. J'avoue que c'est pas... Non, non, non.
Ah, ils avaient un beau motorhome.
Oh, oui, encore.
Ils avaient un motorhome, c'est déjà un exploit.
Ouais.
Ils avaient un motorhome, oui, je me souviens plus du tout comme il était,
c'était,
en fait.
C'était... Alors, attends, c'était une
non,
R25 break.
Oui, c'est ça. Non, il était normal, il était simple, comme les motorhomes de ses écuries. C'est un camion, quoi.
C'est en fait, voilà, c'est les motorhomes d'il y a 20 ans chez Benetton, Ferrari et compagnie.
Et sinon, dernière actu dont on se fout, enfin, non, on s'en fout pas tellement, finalement. C'est Jacques Lafitte hein, qui a répondu au journal du Centre et qui a estimé que c'était une erreur de ne pas avoir de Grand Prix de France. On a déjà un petit peu évoqué avec Antoine. Bon, lui-même reconnaît que là, actuellement, ça paraît impossible.
Il a dit que c'était impossible
à Manicourt. Oui. En tout cas, oui, s'il n'y avait pas d'aide gouvernementale ou régionale pour organiser un Grand Prix, ça pouvait pas se faire. Quoi.
Après, ces aides des collectivités locales, ça me laisse toujours sceptique, parce qu'au final, on parle de retombées économiques, mais Manicourt, bon, alors un Grand Prix de France, peu importe Manicourt ou ailleurs, ça attirera jamais plus de 70 000 personnes sans vraiment qu'il y ait un pilote français ou une écurie française en position de gagner. Moi, je sais que quand j'étais allé en 2006, il y avait 65 000 spectateurs le dimanche. Mais les spectateurs du dimanche, c'est pas ceux qui font tourner l'économie locale parce qu'ils restent pas sur place. Moi, j'étais arrivé le matin, j'étais reparti après la course, donc j'ai pas consommé sur place. Je suis venu et je suis reparti aussi sec, donc j'ai pas...
En même temps, t'es à Manicourt, t'as pas envie de rester. Non mais le circuit est très bien, je parlais des alentours.
Ouais.
Il n'y a rien autour.
Non, voilà. Pour ça.
C'est pour ça qu'il y a finalement assez peu d'intérêt pour une collectivité locale de donner une subvention, parce que l'impact sur l'économie locale, ok, les commerçants de Nevers vont être contents, mais c'est pas non plus à hauteur du déficit, du manque de budget, du manque à gagner dans le budget qui on parlait de 2 millions d'euros, je crois, à l'époque. Il y aura pas 2 millions d'euros d'économie, de retombées économiques sur la région.
Si tu fais 2 millions, ça va vite, hein. Non, ça va vite quand tu vois toute la région, parce que c'est vrai hein, qu'il y a des gens qui restent pas, etc. Mais la majorité quand même, en général, font samedi dimanche. Après, c'est vrai que ceux qui habitent pas trop loin, enfin à 2-3 heures de route, ils peuvent faire un retour dans la journée. Mais 2 millions, ça va vite. Hein. Honnêtement, ça va vite. Mm-hmm. Et ceux qui ont essayé de calculer un peu ce que ça leur apportait. Alors moi, j'avais plus les chiffres pour le Castellet qui était plus proche d'un accord. Mais après, oui, c'est sûr que la région, il y a plus de choses quand même. Il y a Marseille, il y a Toulon, enfin il y a bord de la mer, ça attirera plus, même s'ils ont moins de possibilités de spectateurs. Mais je pense que 2 millions, quand même, tu les... Après, il n'y a pas de volonté politique, alors c'est un problème surtout.
Puis c'est, enfin, c'est-à-dire que c'est, on est un peu toujours dans le problème français aussi, parce que c'est pas valable que pour la F1, c'est aussi le cas par exemple dans les stades et compagnie, c'est que aujourd'hui c'est quand même très dur pour une collectivité de supporter ce type d'événement, mais c'est aussi très dur pour une société privée de réussir à développer quelque chose sans avoir à passer par les collectivités. Il y a qu'à regarder les stades de foot, quoi. On est quand même l'un des rares pays en Europe où les clubs ne sont pas propriétaires de leur stade, et où pour une société privée qui veut développer un stade pour aider à développer le club aussi derrière, se retrouve confronté à une hiérarchie et à des difficultés sans nom, quoi. Donc il faut imaginer un grand prix de Formule 1 qui en plus sur lequel va se greffer véritablement les questions d'écologie et compagnie. Là, c'est juste, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans la situation actuelle de politique, c'est même pas une question. J'ai même l'impression que c'est aujourd'hui, le François Hollande disait on va soutenir le Grand Prix. J'ai même pas l'impression qu'il pourrait y faire grand chose parce que ça serait trop compliqué à, entre guillemets, à monter. Puis ben voilà.
Peur pas. Hein.
Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, c'est un vrai mammouth, quoi. Là où on a par exemple l'impression que, bon, en Chine, par exemple, les mecs veulent construire un circuit. Bon bah voilà, il suffit d'une décision du pouvoir central et le circuit il est fait, quoi. Bah, dans les pays Abu Dhabi, compagnie, c'est fait, quoi.
En Europe, malheureusement, les circuits, il y en aura de moins en moins. Hein. Il va y avoir Valence, donc il n'y avait plus d'argent. Nürburgring, c'est quand même très compliqué. Bon, la France n'y arrive pas. La Belgique, ils ont énormément de difficultés aussi, alors que c'est quand même un des grands moments de la saison. L'Europe, malheureusement, c'est trop cher, quoi. Bernie Ecclestone demande trop d'argent. Parce que, et pourtant, je veux dire que les prix qu'ils demandent pour les Grands Prix européens sont bien inférieurs à ceux qu'ils demandent pour d'autres circuits. Hein. La Belgique, ils payent quand même un tarif très amical et ils ont du mal quand il fait cracher, entre guillemets, mais la Corée ou genre de circuit ou la Chine ils ont beaucoup plus d'argent à mettre, quoi. D'argent privé pour beaucoup.
Mais c'est pour ça aussi qu'on peut pas non plus trop critiquer ces grands prix là dans la mesure où indirectement c'est eux aussi qui alimentent et c'est aussi sur ce sur quoi joue Bernie Ecclestone à la fin, c'est de dire bon bah écoutez eux ils payent bien trois fois plus, vous pouvez payer un peu plus. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait vivre la F1, c'est aussi de l'argent que Bernie Ecclestone ne va pas chercher sur des grands prix traditionnels. Voilà, donc il est toujours en train d'essayer de mégoter un peu d'argent sur ces grands prix là. Maintenant, c'est vrai que quand il parle de Monaco, bon, Monaco se plaint toujours, mais Monaco a toujours un petit peu un statut un peu particulier.
Et puis, ils n'ont pas de problème d'argent, Monaco, a priori.
Non.
Pas trop de soucis de ce côté-là. Mais le problème, c'est que la F1, c'est pas la... Alors, c'est vrai qu'au niveau financier, c'est l'Asie qui peut-être la fait vivre. Mais le problème, c'est que s'il n'y a plus que des grands prix en Asie, il n'y aura plus de Formule 1 parce que c'est pas le spectateur asiatique. C'est pas lui qui est dans les tribunes. Hein. Quand vous allez à Singapour, quand vous allez à Abu Dhabi, ou pas où, les trois quarts dans les tribunes, c'est pas des locaux, hein, c'est des Européens qui viennent parce qu'ils ont un voyage autour, etc. Et le problème, c'est que si vous avez plus que des grands prix en Asie, bah, sera plus possible, hein, donc, les tribunes seront vides et il y aura plus de médias parce que ça coûte cher aussi d'y aller là-bas. Et il y aura plus de médias, il y aura plus de public et donc il y aura plus de Formule 1 parce que s'il y a plus tout ça, va se faire un petit truc entre eux, quoi. Donc c'est dangereux aussi, hein, c'est ce qu'ils se disent, hein, que eux, ils préfèrent aller en Asie, hein. On avait une discussion avec Jean Todt là-dessus l'année dernière, justement. Ah, c'était à Monza. Il avait été un petit peu interrogé là-dessus et il disait non, pour nous c'est très bien d'aller en Asie, ça ouvre la Formule 1 sur le monde. Maintenant il y a plus de grands prix hors Europe qu'en Europe. Donc à un moment, il n'y a plus en rester beaucoup.
Et on a même eu l'année dernière Sébastien Vettel qui est le premier champion du monde de l'histoire à remporter un titre sans s'être imposé sur un circuit européen. Puisque toutes ses victoires, il les avait faites à Bahreïn en début de saison et puis en fin de saison en Asie.
Bah justement, bah tiens, là sur Fan F1, c'est Axel qui justement a fait quelque chose sur l'avenir de l'Europe en Formule 1. Il y a 15 ans, il y avait 80% de Grands Prix européens, et donc en 2013, comme tu l'as dit, il y a plus que 7 courses sur 19, c'est-à-dire on est descendu à moins d'un tiers en fait.
Alors 80%, c'était sûrement trop.
Sans doute.
Après, c'est toujours une histoire d'équilibre, et puis il y a un socle aujourd'hui de courses à l'étranger, que ce soit le Brésil, le Canada, l'Australie, le Japon, et de l'autre côté les États-Unis pour des raisons différentes, mais qui sont des courses inévitables dans le calendrier, qui font que, oui, effectivement, 80% c'est trop. Il y a une appellation championnat du monde, si on reste qu'en Europe...
C'est parce que lui a pris vraiment il y a 15 ans pile, hein, parce que on peut le dire notamment sur une de nos prochaines rubriques. Là, je parle à Adelin parce qu'il nous avait posé la question justement pour ou contre les grands prix européens, extra-européens. Pour avoir regardé sur une plus longue durée et pas simplement sur une année, le ratio est plus à deux tiers un tiers. Oui. globalement, avec des grands prix extra-européens qui ont commencé à 1 jusqu'à se maintenir à 5-6, c'est-à-dire que leur chiffre augmentait, mais en même temps c'était le calendrier dans sa globalité qui augmentait en nombre.
Mais après, c'est-à-dire que ça dépend aussi de la vocation du Grand Prix. Enfin, il y a des Grands Prix, c'est... Enfin, on peut dire ce qu'on veut, par exemple, sur l'Asie. On peut dire aussi ce qu'on veut sur Bernie Ecclestone. Mine de rien, il y a quand même des Grands Prix, des circuits qui ne constituent pas nécessairement des marchés. Je pense notamment au Canada, qui, du fait de la présence d'un et de bientôt deux circuits américains au calendrier, n'a peut-être plus forcément sa raison d'être. On peut penser aussi à l'Australie, qui ne constitue pas non plus un marché absolument énorme pour les écuries de Formule 1. On peut penser aussi, pourquoi pas, à la Malaisie, qui a quand même, on va dire, deux grands prix en comptant Singapour, qui a deux grands prix sur son sol. C'est pas non plus des marchés extrêmement porteurs, pas aussi porteurs par exemple que ce que peuvent être le Japon,
la Chine, l'Inde
et ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression, parce que il y a la Chine, il y a l'Inde et compagnie, que on va vers ces destinations là parce que aussi il y a Abu Dhabi et compagnie qui sont un peu bling bling, donc il y a ces destinations là qui sont aussi principalement motivé par la volonté de conquérir des nouveaux marchés. Faut pas oublier, c'est que aussi pas mal de circuits non européens conjuguent aussi une véritable volonté de revenir sur des classiques, le Canada, l'Australie, le Brésil. Enfin voilà, ce sont des étapes absolument classiques, même si le Brésil ça reste quand même aujourd'hui un marché très important pour les constructeurs. La Malaisie c'est aussi un mix, c'est quasiment devenu un circuit historique parce que c'est quasiment l'un des en dehors Suzuka qu'on mettra un peu à part parce que bon, voilà, c'est Suzuka, c'est l'un des premiers nouveaux pays qui est arrivé en Formule 1, les nouveaux pays d'Asie. Puis en plus, ils ont un bon circuit où je pense aujourd'hui ça ferait râler pas mal de monde si après la Turquie, en plus, on perdait la Malaisie, ça en ferait chier certains. Voilà, il y a le Singapour qui a aussi son charme. Donc je pense que on peut être contre certains grands prix extra-européens. Maintenant, il faut aussi regarder ce qui les motive et ce qui justifie leur présence en Formule 1. La Corée par exemple, ce qui justifie leur présence en Formule 1, c'est pas le circuit, c'est pas l'environnement, c'est pas l'ambiance, c'est pas les courses qui sont pas en dehors du départ et des premiers tours qui sont sympas, mais sinon les courses sont pas non plus extraordinaires. Ce qui justifie leur présence, c'est juste qu'à une époque, il y avait un grand sponsor qui s'appelait LG, qui était coréen et qui était impliqué en Formule 1, et voilà, c'était un petit plaisir qui s'était fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est un Grand Prix qui mérite sa place? Non, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir évacuer les Grands Prix qui n'ont plus leur place, et c'est difficile quand tu demandes à un pays de dépenser 300 millions, de leur dire « écoutez, c'est bien, on est venu chez vous 3 ans, mais bon, maintenant, on va peut-être retourner sur des vrais circuits qui font plaisir aux gens, et on va arrêter de rouler sur votre merde. »
Pas la Corée, ils ont pas rempli non plus cahier des charges, hein, parce qu'ils avaient proposé un circuit en ville, etc. On se retrouve avec un circuit au milieu des marécages.
Mais des départs qui y croient, quoi.
Et en plus, déjà, personne n'y a cru. Et en plus, au bout de 2 ans, ils avaient déjà plus de pognon. Donc, il y a un moment, s'ils peuvent pas payer, s'ils font pas ce qu'ils ont dit, moi, je pense qu'on peut très bien leur dire, tant pis, on arrête. Voilà, il y a des grands constructeurs qui est Hyundai, alors ils sont pas en Formule 1, ils ont rien à voir avec la Formule 1, mais qui tout l'endroit autour du circuit, ça appartient à Hyundai. Il y a les chantiers navals, ils pourraient essayer de trouver quelque chose avec eux, et simplement ça n'intéresse personne. Après, le marché, c'est pas que le marché, pas que des endroits où il y a un marché intéressant au niveau de l'automobile, parce que la Formule 1, c'est de moins en moins des constructeurs, alors c'est aussi des marques. C'est pour ça que c'est important d'aller à Singapour, à Abu Dhabi, parce que c'est une vitrine aussi.
Bah, la Thaïlande, par exemple, c'est clairement
Red Bull.
C'est-à-dire que c'est Red Bull. C'est à la limite, c'est logique qu'on aille en Thaïlande. C'est quand même aujourd'hui l'un des gros pourvoyeurs de la F1, ça reste comme Red Bull. C'est quand même une marque.
De même qu'on a parlé d'un retour en Autriche. Pour les mêmes raisons.
Voilà, on a même évoqué à une époque le fait qu'on pourrait avoir une alternance entre l'Autriche et la Thaïlande. C'est clairement l'identité Red Bull, quoi. Donc ça serait parfaitement légitime qu'on aille sur ces circuits-là et que le jour où Red Bull se désengage, on n'y aille plus. Moi ça me choquerait pas qu'on aille plus sur ce type de circuit parce qu'on n'y est plus impliqué. Il faut toujours essayer aussi de regarder les grands prix en fonction de ce qu'ils apportent à l'instant où ils sont dans le championnat.
Donc voilà, pour le coup, on a un peu débordé sur le répondeur. J'espère que, Adelin, tu es satisfait de ta question, de ce débat que tu voulais amener dans l'émission. On en a fini pour le podium de l'actu et l'analyse des actualités. Messieurs, au niveau du sondage, avez-vous des idées? Voulez-vous proposer un sondage classique ou souhaitez-vous rester dans la mouvance de cette année?
Bon, ben on peut pas en proposer à Antoine de nous suggérer un sondage.
Ça c'est facile. Vous avez pas d'idée.
On fout les autres dans la merde.
Donc voilà, vous me demandez à moi.
Il faut te souvenir que tu as un ta-gueule.
Ah c'est vrai. C'est vrai que j'ai un ta-gueule. Non mais je peux pas l'offrir mon ta-gueule.
Ne me pas que si des gens fans de F1 sont capables de répondre le Monopoly ou le Docteur Maboul à une question sur la F1, c'est que tu as une énorme latitude sur le sujet.
Les F1 se portent mal.
Faut imaginer un sondage à la con avec un sujet de... Quel sujet à la con on a abordé aujourd'hui? Ce silence, faut le garder. Voilà. Quel sujet à la con on a abordé suivi d'un grand silence? C'est gage de qualité. Oui. On n'a pas abordé le sujet à la con. Magnifique.
Vu qu'on a beaucoup parlé de pays comme le Kazakhstan et les autres pays de la F1, on peut demander aux gens faire un florilège de pays très exotiques et voir quels pays ils aimeraient bien voir arriver en F1, que ce soit en sponsor ou...
On va se lâcher, attention, j'ai dit.
Ah mais oui, mais c'est un peu le but.
Ça me va, très bien.
Allez, on va pour ça.
Alors c'est bien, on a 10
possibilités.
Alors c'est... En ce moment, on fait ça, on fait des sondages avec 10 possibilités de réponses.
Moi déjà, j'aimerais bien parce que vu que le Sud en a un, hein, ça serait peut-être bien la Corée du Nord.
La Corée du Nord.
Voilà.
Oui.
Mais en alternance avec l'Iran dans ce cas-là.
Ah oui, voilà. Tu peux mettre ça en réponse, la Corée du Nord en alternance avec l'Iran, je me dis.
Bah le Vatican pour le Grand Prix de Rome.
Oui, c'est vrai.
Oui. Puis ça changera des maillots de foot parce qu'en ce moment, disons, le pape, il a que ça, que des maillots de foot. Mm. Il pourrait avoir les casques. Ça serait bien. Mm. La Mongolie.
Oui.
Mais la Mongolie, pas ville.
Non.
La Mongolie, campagne.
Le désert de Gobi.
Alors, puisque t'as l'air de bien connaître la Mongolie, c'est quoi déjà la capitale?
Ulan-Bator.
Ulan-Bator.
Ah, bien. Ouais, je vois qu'il y en a qui ont suivi Pékin Express, il y a quelques années.
Ah non, même pas. C'est très simple, prenons une carte du monde.
Prenons une fléchette.
C'est à peu près ça.
Pourquoi pas?
Et pourquoi pas le Groenland? Après tout, on va aller à Sochi au mois de novembre.
Un grand prix sur glace,
voilà.
Ce serait très bien.
Ouais.
Parce que Sochi, c'est...
Ouais, puis c'est écolo, le Groenland.
Oui, c'est vert.
Oui,
ça pourrait contribuer à l'image de la F1.
Ça pourrait contribuer à la fonte des glaces.
Quitte à ce que la glace fonde, autant l'aider un peu, quoi. Parce que là, c'est...
Voilà.
C'est ça. Sinon, tu fais un circuit dans la montagne, quoi. Mm. Là, il décolle, des trucs comme ça. Au lieu de le faire en ville, tu le fais...
L'Apex.
L'Alpe d'Huez, le Grand Prix de l'Alpe d'Huez, tu leur fais tout grimper, puis tu leur fais tout redescendre. Grand Prix de 150 km.
Ah, on me dit que c'est déjà fait. Armstrong faisait déjà ce Grand Prix.
Et il était sponsorisé par Astana, lui aussi?
Bah, sur la
oui,
fin,
en
oui.
Plus, oui.
Oh, j'ai bien envie d'un petit Grand Prix en Érythrée.
Tu préfères pas le Mali?
C'est vrai que c'est plus simple à orthographier.
Non, je peux orthographier Érythrée, c'est pas un problème.
Parce que j'allais dire, juste pour que Shinji l'écrive, et derrière tu proposes le Mali. Le Mali, oui, si tu veux. C'est polémique.
Sinon, tu fais un Grand Prix de Suisse, mais une course en ligne en fait. Tu pars de la frontière et le premier arrivé à Berne, il gagne un compte.
Non, mais tu fais...
Ah, Cahuzac GP vient de s'inscrire, on me dit.
Tu sais, c'est pas possible en Suisse, tu sais bien, c'est interdit. Par contre, on peut faire, pourquoi pas, le Grand Prix de Suisse au Mali.
Voilà. C'est une bonne idée, ça. Après, qu'est-ce qu'on a comme pays Malte.
Oui. Oh, il y aura la place quand même, c'est petit Malte, mais je sais pas...
Ah bah, disons que tu fais un Grand Prix à Malte, t'as pas le choix du circuit.
Tu fais le tour de l'île. Bah, Grand Prix à Tchernobyl, tant qu'à faire.
Ah, Fukushima. C'est plus moderne, les risques sont plus grands.
À Fessenheim.
On en a combien, là, Shinji?
À 8.
À 8, il en manque 2.
Ah, il en faut vraiment 10.
Ouais. Au pays des merveilles.
Sur la Lune, comme avait fait Total.
Ah bah oui, sur la Lune.
ou dans la Lune.
Tu veux que je mette au Pays des Merveilles en dixième choix?
Ouais, ouais, c'est...
Au Pays de Candy.
Faut choisir, les gars, faut... Ouais, puis...
Bah, Antoine, au pays de Candy ou au Pays des Merveilles?
Alors, je préfère au Pays des Merveilles, moi.
Ouais. Avec une piste jaune en brique.
Le Grand Prix des Merveilles.
Mmh. Et encore une fois, cette semaine, on va vous proposer un magnifique sondage.
À la con.
Où aimeriez-vous voir arriver la F1 dans le futur? Vous aurez le choix entre la Corée du Nord, en alternance avec l'Iran, le Vatican, la Mongolie, le Groenland, à l'Alpe d'Huez, le Grand Prix de Suisse au Mali, à Malte, à Fessenheim, sur la Lune, ou bien au Pays des Merveilles.
On aurait pu mettre dans ton cul, mais
non. Non, non, non. Restons quand même à un certain niveau de standing.
Oui, c'est vrai. Il faut pas non plus tomber de trop bas. Et Dieu sait qu'on tombe bas avec les sondages.
On va passer au répondeur, messieurs.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Donc, comme je l'ai dit, normalement, on avait un message d'Adelin. Adelin nous posait la question, oui, êtes-vous pour ou contre les Grands Prix extra-européens? Bon, on en a pas mal parlé, je crois, pense.
On fera le tour, on dira pour ou contre.
Oui, à la limite.
Et comme ça, on aura répondu, quoi.
Oui. On en profite quand même pour passer le message d'Adelin, maintenant.
Salut à tous, nous revenons enfin en Europe, d'où mon débat, pour, pas pour, les Grands Prix hors Europe. À bientôt.
Donc voilà, c'était le message d'Adelin.
Non,
donc...
il faut sincèrement dire que j'ai dit beau message.
Ah oui, super.
C'est
long
un message,
et tout.
Plein de...
Bah, je l'ai pas entendu, c'est marrant, hein. Ça devait pas marcher.
Mais c'est en fait, Adelin a une toute petite voix. Il
oui,
est belge
d'accord.
Aussi, donc ça aide.
Et Adelin, il faut te le dire, hein, tu ne seras pas payé à envoyer des messages. Parce qu'il nous envoie à chaque émission une question pour répondre. Tu ne seras pas payé,
oui.
Adelin. Faut que tu le
donc,
saches.
On va répondre à Adelin quand même, hein. Donc, pour ou contre les Grands Prix européens. Extra-européen. Européen, ça aurait été drôle comme question, tu vois.
C'est un peu.
Pour ou contre les Grands Prix.
Ah, pour ou contre les Grands Prix, voilà. Voilà. Alors, on va pas répondre à ta question, on va juste répondre à la question pour ou contre les Grands Prix. Et après, on te répondra à la question pour ou contre les extra-européens. Et là,
non, non.
On va tous
là,
passer
là,
pour
on
les racistes.
Là, on parle des trucs. Alors, Dino, pour ou contre les Grands Prix?
Ah bah, tu me connais, je suis obligé de dire pour ou contre. Ça dépend. Ça, sincèrement, ça se discute, il y a débat.
Ça dépend s'ils sont extra-européens, en fait.
Oui.
Voilà. Non, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées il y a 10 minutes.
Gus Gus, finalement, pour ou contre les Grands Prix extra-européens? Gus Gus?
Commence le montage.
Oui, j'ai l'impression.
Ah, pardon, j'étais en mieux.
Oh, bravo.
Ah, ça, et ça, beau. Tu vois, il va le couper, le messien.
Bien sûr.
Ça s'appelle une Steph Core.
Oui, on le salue. Parce qu'il faut juste un équilibre, quoi. Il faut pas que ça devienne, on fait 4 courses en Europe et 16 un peu partout dans le monde.
Antoine?
Bah, pour aussi, si ça reste. Moi, ça me fait des plus beaux voyages.
Oui.
Enfin, j'aime bien l'Europe, mais.
Et donc, sinon, pour ma part, bah oui, pour aussi, parce que, comme on l'a dit, de toute façon, on peut pas généraliser tous les grands prix extra-européens. C'est plus ponctuel. Donc, pour, globalement, oui, quand même. Sinon, Dino, on a d'autres questions, mais cette fois-ci qui ne viennent pas de nos auditeurs habituels.
Oui, c'est vrai. Enfin, on a d'autres questions. C'est-à-dire qu'on va pas vous cacher, bon, on s'est dit, c'est bien, on a Antoine Arlot. Bon, Antoine Arlot est très actif, notamment sur Twitter. Voilà, donc c'est vrai que c'est un plaisir de le recevoir. On s'est dit aussi, bon, il a quand même des potes dans le paddock.
Oh, très peu.
Très peu, hein. Il y a quand même des journalistes qu'on connaît, compagnie, que ça serait bien qu'on les reçoive un jour. Donc, ce qui serait intéressant, Antoine, c'est que dans la perspective où nous allons les recevoir un jour, c'est que tu leur laisses un message que nos auditeurs n'écouteront, mais qu'ils découvriront lorsque nous recevrons. Alors, on a pour projet d'essayer de recevoir Thibault Larue et Julien Febro. Voilà, donc c'est encore des choses qui sont à mettre en place et à faire, mais c'est des projets. Ça avance petit à petit. Mais on va quand même pas te demander tout de suite de poser des questions parce que on pourrait.
Ah, je les ai, c'est bon.
Oui, mais on va peut-être réussir à te t'inciter à trouver des questions plus vachardes puisqu'il se trouve que on leur a demandé à eux de te poser une question pour cette semaine.
Oui, j'ai croisé un certain Thibault Larue qui m'a parlé de ça, mais il m'a pas dit ce qu'il avait posé.
Alors, tu veux la question de Thibault Larue?
Allez, commençons par lui.
Alors la question de Thibault Larue, elle est toute gentille, hein. C'est quel pilote actuel choisirais-tu pour commenter des grands prix avec toi?
Oui, elle est gentille, oui, je suis même étonné. C'est fou, hein.
Attention, il y a Julien Febvre qui arrive derrière.
Ah oui, ça m'inquiète beaucoup plus. Quel pilote actuel choisis, est-ce que je... il en faut un qui parle bien et quoi. Qui... Vous allez me dire que. Ouais, faut pas que je sois trop mal gros genre, parce que sinon vous allez me tomber dessus. Pourtant, je pense que ce serait le meilleur. Puisqu'il travaille déjà avec nous et qu'il a des. Généralement de bonnes analyses. En même temps, je peux le quand même parce qu'il faut que ce soit un français, parce que si tu veux, si on commente avec un anglais, ça va être un peu compliqué.
Bon, ça peut être sympa.
Ok, avec Nico Rosberg, ça peut être pas mal aussi, parce qu'il a toujours des expressions, il parle très bien français, mais il a toujours des expressions, genre, comme Cézou qui mélange, etc., parce qu'évidemment, c'est pas sa langue natale.
Tu sais, sur Canal+, c'est vrai que t'as pas Canal+, mais sur Canal+.
Il y a Villeneuve.
Mais il vit, et parfois, on a l'impression qu'il est pas francophone.
Hey, ouais. Comment en Québécois, quoi.
Ils ont des expressions, ce serait pas mal avec Villeneuve, mais je crois que le poste est déjà pris. Non, mais avec Rosberg, tiens. Avec Rosberg, ce serait drôle.
Alors après, il y a, bon, ça, c'est Thibaut qui a été très gentil. C'est vrai.
Ouais, et puis après, il y a la question de Julien que je crains pas.
Il y a Julien, qui a été un peu moins gentil. Je crois que t'as une contribution, Gus, de la part de Julien Febvre.
Effectivement, ouais. J'ai une mission, apparemment. Donc ça va commencer d'ici 2 secondes. Roxanne!
Ah oui!
You don't have to put on the red light!
The sail
are over! You don't have to sell your body to the night! Roxanne! You don't have to wear that dress tonight! Walk the streets for money! You don't care if it's wrong or if it's right. Bon, je vais m'arrêter là parce que on a perdu les 3/4 des auditeurs.
C'est très beau. En plus, ça ressemblait tout à fait à ce qu'il voulait. Je sais pas s'il veut que je le raconte.
Oui.
Je vois tout à fait de quoi il veut parler.
Moi, je suis absolument pas au courant. Moi, je vais demander de chanter un morceau de la chanson.
On ne connaît pas les réponses aux questions qui sont posées par nos invités.
Alors je vais te l'expliquer, mais c'est très simple. En fait, pour aller au Dakar cette année, je suis désolé, c'est pas de la Formule 1. Julien a eu le bonheur de faire le vol qui à peu près fallait aller. Je sais même plus où on est parti. Tiens, c'est force de faire des pays. Je me souviens même plus où on est parti. On est arrivé à Santiago et on est parti de.
C'est pas le Pérou?
Lima, au Pérou, évidemment. On est parti de Lima. Et donc, pour faire le voyage entre Paris et Lima via Madrid, c'est à côté de quelqu'un qui était totalement ivre, hurlait dans l'avion, cette chanson, donc il chantait cette chanson dans l'avion, un vrai bonheur pour Julien. Mais tu vois, il le regardait comme s'il lui chantait, tu vois, c'était pour lui qu'il chantait Roxane. Il a essayé de tourner la tête à chaque fois en disant oui, je sais ça, c'est ça. Mais l'avion était plein, donc le pauvre, il pouvait pas changer de place. Il a passé un très bon vol. C'était sur la fin du vol, il était content. Et la personne a dû boire à peu près 2 bouteilles de rhum, donc forcément, déjà que dans un avion, ça rajoute un petit peu, donc là, il était bien.
Non, mais tu peux le dire, c'était Kimi Räikkönen.
Pas Kimi Räikkönen, je ne dirais pas qui c'était.
Ah, c'est quelqu'un connu?
Je vous laisserai demander à Julien. Non, c'est pas quelqu'un connu.
Alors ensuite, une dernière question de la part de Julien Febvre.
Double effet qui se coule.
Parce que ça, c'est pas vraiment une question.
Non, voilà, c'était plus un souvenir. Alors, il aimerait... encore une fois, c'est pas une question, parce que il a la réponse, mais il aimerait que tu partages ça avec nous. Il paraît que tu connais très bien un pilote de Formule 1. Si je me trompe pas, c'est un pilote suisse qui s'appelle Sébastien Bémy.
Ouais, enfin lui aussi.
Voilà. Et que tu partages une passion avec Sébastien Bumi, dont
non,
tu adores.
Non, je vais trop sortir le ta gueule, je suis désolé. Malheureusement. Non, mais
malheureusement, le ta gueule, c'est un de nous qui doit. C'est un de nous qui devons nous taire, c'est pas toi.
Oui, non, mais le problème, c'est que si tu ne peux pas poser la question, je pourrais pas y répondre.
C'est vrai.
Non, c'est la passion de la Formule 1. Évidemment,
vas-y, fais-le. Rien que pour se dire que même les invités lui mettent un ta gueule.
Non, mais voyons, une passion assez originale avec lui, dont il discute à bâton rompu à chaque fois que l'on dîne tous ensemble. Allez, 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 allez.
C'est vrai, mais c'est quelque chose qui est très privé, donc on peut pas. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets de conversation passionnants avec Sébastien.
Et donc
Non, on aime beaucoup parler de Formule 1, vraiment, c'est une passion pour nous, on adore ça. Non, mais on a des discussions un peu étonnantes des fois, pas très propres et pas très...
Un peu scato, très non
non,
ah bah,
non,
nous ça. On imagine.
On va pas dire ça, ça peut ressembler à ça, mais non, on va pas dire ça.
Non, mais utilise ton ta gueule et tu seras tranquille, Antoine.
Oui, mais après, on va plus l'entendre pendant 5 minutes, alors je te fais un petit ta gueule pour qu'on arrête là. Mais effectivement, on a des sujets de conversation passionnants. Mais je te promets que quand tu viendras sur la F, si tu viens sur la Formule 1 sur un Grand Prix, tu pourras participer à cette conversation qui est passionnante.
Ah, ils m'ont raconté.
Voilà, exactement.
Donc maintenant, je me tais.
Mais voilà, si vous venez sur un Grand Prix, je vous raconterai.
Ok.
À n'importe qui écoute. Oh.
Envoyez des mails à RMC.
Ouais.
Très bien, vu qu'on a fini le répondeur, on va passer aux citations. Non, je ne les ai pas zappées, mais c'est juste que comme il y avait une belle transition, hop, je les ai décalées. Les citations de cette semaine. Messieurs, avez-vous des citations qui vous ont marqué?
Moi, j'ai une citation de Nicolas Tambazis, le designer en chef de Ferrari. Si je devais noter notre performance globale, je ne donnerais que 6 sur 10. C'est dans la suite de la série, on se donne une note sur 10 après Bottas qui se donne 8,5. Ce qui fait que Bottas se donne plus performant que Ferrari. Bon.
Oui.
Moi, je trouve déjà rassurant que quelqu'un chez Ferrari souligne qu'il y a eu des erreurs de fait, parce que au final, après les grands prix, après Bahreïn et après la Malaisie, où il y a eu quand même eu deux erreurs assez conséquentes, je trouve. On n'avait pas eu l'impression que ces erreurs étaient trop prises au sérieux, alors que c'est quand même coûteux, quoi. Alonso perd un podium dans les deux cas et perd beaucoup de points, et du coup il se retrouve à une trentaine de points de Vettel. Donc je trouve rassurant que chez Ferrari on souligne l'erreur et on fasse en sorte que ce soit pris en compte pour la suite.
Et non, Dino?
Bah moi je suis censé me taire alors.
Oui, c'est vrai ça.
Ah oui, c'est
bon là, ces 5 minutes sont passées.
Oui.
Ah du coup, il est gentil, il compte le temps hors montage.
J'ai chronométré.
Alors moi ça serait pas
une
citation.
Ça fait 4 minutes 30, t'as encore 30 secondes.
Merde.
Non, plaisante, tu peux y aller.
Ça va pas, je vais avec mon cœur comme ça. Moi ça sera pas une citation, ça sera plutôt un type d'article, un article anglais du site f1plus.com qui est le suivant: McLaren va-t-elle devenir la nouvelle Williams? Voilà, c'est-à-dire que à la fois le titre me fait rire, parce que je me dis bon, c'est pas parce que le début de saison de McLaren est un peu difficile qu'il faut tout de suite commencer à s'inquiéter. Mais en même temps, l'article est assez intéressant parce que il met aussi en perspective le fait que cette mauvaise saison, plus le fait que on parle du moteur Honda en 2015, donc ce qui fait qu'en 2014, il continuerait avec un moteur Mercedes sans avoir autant l'implication de Mercedes que si c'était une équipe qui était inscrite sur le long terme avec Mercedes. Ça pouvait peut-être ouvrir une spirale, comme ça avait ouvert une spirale chez Williams. Voilà, donc je trouvais surtout l'idée intéressante de se dire finalement Williams nous rappelle malgré tout qu'on peut être une grande équipe qu'on estime insubmersible, et 10 ans après être une équipe finalement qui se bat contre des problèmes financiers, contre des problèmes techniques et compagnie, et qui a du mal à s'en sortir. Voilà, qui sait, peut-être que dans 10 ans McLaren sera une équipe de fond de peloton, quoi.
Sinon, moi, j'avais une citation de Mariette Villota, on l'a évoqué, hein. Nous sommes tous plus forts et plus capables que nous pouvons imaginer, alors il faut croire en soi, votre entourage aussi. On l'a dit, hein, elle sera de retour ce week-end quand même sur un Grand Prix de F1. Ça fait quand même plaisir, après tout ce qui lui est arrivé. Et Antoine, je sais pas si...
Alors le problème, c'est que j'ai mal fait mes devoirs. J'ai rien cherché. Mais là, donc là, je suis en train de chercher pendant que vous parlez, mais je trouve rien d'extraordinaire. Donc plutôt que de dire une bêtise, je préfère vous laisser.
C'est bon, tu es excusé.
Gentil. Sinon, tu peux me virer du SAV, et tant pis. Hein.
Bah non, mais nous, ça y est, on t'a adopté, maintenant tu viens toutes les semaines, t'as un contrat maintenant.
D'accord. On se mettra d'accord pour le salaire.
Ah merde, bah écoute, moi je dis c'était une expérience à vivre, voilà, t'étais là, c'est bien. Mais il faut savoir se séparer en bon terme.
Voilà, c'est ça.
Sinon, on va rappeler, donc, pour le répondeur, hein, si vous souhaitez poser une question au SAV, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur le site savf1.fr et vous pouvez nous laisser un message audio. Sinon, par mail, l'adresse c'est répondeur@savf1.fr. Il y a aussi le concours top à position, ça c'est pour la semaine prochaine. On vous rappelle la question en cours. Parmi les champions du monde de Formule 1, combien de fois le champion du monde a gagné le Grand Prix de France l'année de son sacre? Et on rappelle que la semaine prochaine, donc, pour cette question, il y a une casquette Ferrari à gagner.
Et rappelons donc qu'il est important de participer parce que toutes les personnes qui n'auront pas été sélectionnées pour remporter la casquette Ferrari, mais qui auront donné la bonne réponse, participeront au grand tirage au sort de fin de saison qui vous permettra malgré tout, j'aime bien le malgré tout. Malgré tout, une réplique du casque de Alain Prost dans sa version 93, l'année de son dernier titre, puisqu'on fête les 20 ans du dernier sacre d'un pilote français, donc de Alain Prost. Voilà, une réplique à l'échelle 1 d'une valeur de 500 euros.
Et sinon, pour le répondeur, le mieux, c'est peut-être qu'il t'appelle directement, Dino. Alors, ton numéro, c'est le 06-61-94.
Enfoiré.
Peut-être le mieux. Alors, ils sont sûrs de tomber sur quelqu'un.
Non, mais il n'y a plus de nuisible encore. Cela, il peut le faire dans le SAV, mais il peut le faire sur RMC. Là, ça sera vraiment.
Ou sur Twitter.
Oui. Ah oui, tiens, je vais le tweeter tout de suite. Tiens, bonne idée. Très bonne idée.
On vous rappelle, pour participer au concours, l'adresse mail c'est concours@savf1.fr. Si vous souhaitez participer, comme tous nos invités, comme notre fabuleuse invitée de cette semaine, Antoine Arlot, à une émission du SAV d'après-course. L'adresse, c'est contact@savf1.fr. Est-ce qu'on a des places, Dino?
Oui, il y en a. Alors, pas pour la semaine prochaine en Espagne. On sera avec un autre Antoine. Antoine du site fanf1.com, puisqu'il est de retour dans la rédaction de fanf1.com. Voilà. Et puis après, il y a des places. Là, j'ai plus en tête. Je crois qu'il y a un Grand Prix qui est réservé. Mais sinon, continuez. Je crois que Monaco est réservé. Mais continuez. N'hésitez pas à postuler. On enregistre le mardi soir. Donc,
On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1...
Et c'est long, hein, c'est très long. Je plaisante.
Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter même. Si vous voulez connaître nos Twitter, ils sont sur le site savf1.fr, sinon il y a le hashtag SAVF1. Et on vous rappelle, comme d'habitude, la F1 sur Internet, c'est sur...
FanF1.com
et RMC.
Et RMC.
Et RMC.
C'est ce que j'allais dire. La F1 à la radio, c'est sur
RMC.
Parce que le SAV de la F1, c'est, et là vous.
En couleur.
Oui, en couleur, gratuit, c'est le Ritz des podcasts, c'est tout ce que vous voulez. Antoine, on te retrouve donc, dès ce week-end au Grand Prix d'Espagne.
Eh ben oui.
Tu pars.
J'espère, si
tu pars quand? Demain? Après-demain?
Je pars jeudi matin.
Jeudi matin.
Très tôt.
Donc on te retrouve tout le week-end sur l'antenne d'RMC.
Exactement. Oui. Dès jeudi dans le Moscato Show, vendredi, samedi avec les qualifs et dimanche.
Profite, c'est ton moment, auto-promo, un maximum pour récupérer des auditeurs RMC.
Et c'est gratuit, hein, et c'est gratuit, donc.
Ah, c'est gratuit, c'est en couleur, c'est comme le SAV en fait.
Vous n'avez pas trop le choix, hein, si vous voulez suivre la F1 en français gratuitement.
C'est RMC le week-end et le SAV de la F1 le mercredi.
Exactement.
Exactement.
Voilà.
Antoine, un énorme merci de nous avoir fait l'honneur de participer à cette émission.
Et la confiance.
Merci à vous.
Non mais c'est vrai, il faut le dire, dans un milieu qui parfois peut paraître fermé, c'est bien de pouvoir recevoir des journalistes professionnels dans une émission amateur comme la nôtre, même si on essaie d'être sérieux et compagnie. Mais merci vraiment de cette confiance.
Bah, merci à vous, nous en aurez d'autres. Hein. Moi, je reviendrai et puis il y en aura d'autres.
Ah,
chouette.
Je vais faire la pub.
Il y en a déjà deux qui attendent le lien.
Et ben donc, on souhaite à tous, tout simplement, un bon Grand Prix d'Espagne, hein, que ce soit en tant que journaliste, consultant, et même en tant que spectateur. Rappelons que, en règle générale, le vainqueur au Grand Prix d'Espagne, souvent... Je dis pas du tout ça parce que il semblerait que déjà que Lotus soit plutôt bien placé pour le Grand Prix d'Espagne.
Je vais expliquer, c'est que Shinji est convaincu que... Il se repose soi-disant sur des chiffres officiels que le vainqueur en Espagne et le vainqueur en Australie, il est à 100% de chance d'être champion.
Non,
il se trouve qu'il y en a un qui a gagné en Australie et qu'il voit bien... Ça, c'est des stats à deux balles, ça, Shinji. Ça va rien dire.
Oui, mais il faut s'attacher à tout ce qu'on peut. Tu vois, la branche qui tend vers toi, il faut la prendre, il faut la saisir.
Oui. Il faut la lâcher quand elle casse. Faudra la lâcher à un moment donné, Shinji.
Allez, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, quelle que soit l'heure où vous nous écoutez. Ciao à tous.
Salut.
Salut.